Hervé Claude, Jean-Claude Narcy, faites place, ténor du journalisme. J'arrive.
Ça va fuser les potins, les ragots.
Ça vous ennuie si je vomis?
Bien manger, c'est important.
À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish.
Vous êtes en train d'uriner sur ma voiture.
Absolument. Et quand même, est-ce que je peux vous demander pourquoi?
Parce que je pense pas que deux trous du cul soient plus efficaces qu'un seul.
Oh yeah!
Oh yeah! Bonjour!
Bonjour tout le monde!
La vie chante!
J'ai dû écouter Michel Fugain avant!
C'est une erreur.
Les gens vont se demander ce qu'on fait avant après.
Grave erreur.
On écoute des Michel Fugain et du Stevie et du plein de trucs.
Et on attaque l'apéro, et oui, c'est le mélange qui donne ça.
C'est vrai, voilà. Ça fait un beau truc. Bienvenue pour ce nouvel épisode. Et merci. Avec un changement de format, on ne sera plus que 4 les gars malheureusement.
Et oui.
Auguste qui est parti pour son propre podcast. Alors je vous rappelle plus du nom exact. Ça joue avec le
Vinil Vici.
Ouais, un truc comme ça. Voilà. Donc allez l'écouter si vous voulez écouter un peu sur un podcast de musique voilà, à fond. Donc du coup changement de format, plus de pastilles mais toujours 4 crevards. Non parce que j'allais dire 4 chroniques mais ça ne veut rien dire en fait, c'est 4 œuvres présentées.
Voilà. Ouais.
Et ça. Du coup, ce soir, nous avons le petit Angelo qui est avec ce petit truc de Lakers, c'est tout.
Le petit maillot des Lakers de 73 de Will Chamberlain.
Ah ouais, putain, j'avais pas fait attention. Il va bien ?
Oh, la méga patate. Méga content pour le thème de ce soir. Je suis venu avec un ballon de basket, mais bon, c'était pas
pour l'enregistrement.
Les voisins vont pas apprécier.
Les voisins sont pas très contents.
Je l'ai laissé dans la salle d'à côté, du coup.
Et le Pedro, je lui prends sa place pour cet épisode. Il est content ?
Ah bah
il
n'a pas besoin
de gérer.
C'est ça, c'est repos, c'est vacances ce soir.
Tu vas pas oublier de lancer le quiz ou les rocos à la fin, c'est ça ?
Tu te démerdes.
Tu fais.
Il va bien ? Toujours
bien ?
Ça va
pas mal. Ouais, merci, ça va très bien.
Très belle moustache, Pedro.
Oui, c'est naissante seulement.
Très saillante.
C'est moche, une semaine de moustache.
Ouais, on est au début du Movember.
Demi-molle de moustache.
C'est une espèce de paillasson dégueulasse.
Et Pépé, comment qui va bien ?
Eh bien, ça va très bien, très bien, en pleine forme, content de reprendre aussi.
Ça y est, en pleine forme, c'est bon, il n'est pas malade,
il bon, tout,
parce que c'est début novembre. Alors,
c'est clair, c'est le calme avant la tempête.
Oh, c'est clair.
Du coup, pour cet épisode, on va parler sport.
Oui.
Un sujet très précis, non, c'est super large, il n'y a pas de...
C'est clair.
Sport, démerdez-vous.
Démerdez-vous. Et du coup, on a besoin d'être introduit, parce qu'on est toujours sourd. On adore
encore.
Toujours être introduit, c'est très important.
C'est ça.
Et c'est le Pedro qui va nous introduire.
Bah
ce
oui,
thème.
Bah
vas-y.
Oui.
Vas-y, mon gars.
Bien que je bosse un petit peu quand même. Moustache. Alors, messieurs, le sport dans la pop culture. Vaste sujet. Hein.
Oui.
Vaste sujet.
Ouais. Si, malgré des débats, le sport peut être défini selon les 7 critères proposés par Alan Gutmann, l'aspect séculier, la rationalisation, la bureaucratisation, la quantification, l'égalité, la spécialisation et le record, il englobe également tout type d'activité physique réalisée dans un but récréatif, hygiénique ou compétitif, tout en se déroulant dans un cadre réglementaire minimal. De ce point de vue, le sport est ainsi ancré dans le quotidien et ses objets, ainsi qu'au sein de la culture populaire. Ainsi démarre l'argumentaire du colloque « Sport, culture populaire et culture matérielle » de l'Université de Franche-Comté à Besançon le dimanche 5 juillet 2020. Ce colloque entendait questionner les pratiques sportives et ou ludiques productives ou productrices, pardon, ou dérivant de cette culture en se focalisant sur les biens matériels produits et reflets d'une société donnée. En gros, c'est ce qu'on va faire nous, mais en vachement moins marrant.
Ok.
Voilà. Ouais, c'est ce que j'avais compris. Donc,
ce questionnement franc-comtois m'a inspiré. Comme l'influence de la gastronomie sur la pop culture, par exemple, était assez évident, inutile de vous dire que celle du sport l'est aussi. Inutile également de me lancer dans une liste des œuvres dont nous aurions pu parler ce soir. Du jeu de poney pour ados prépubères Alexandra Lederman, Gallo 1, Oh qu'il est beau mon joli poney, à l'hymne de l'équipe de France de foot déclamé par le poète Maître Gims, en passant par les chefs-d'œuvre que sont Air Bud 1, 2, 3, 12, ou encore le dernier best-seller de Daniel Riolo, Pourquoi les étrangers courent plus vite et que ça c'est pas juste? Non, inutile en effet. Moi, je préfère profiter de cette introduction ce soir pour mettre en lumière la pop culture qui inspire le sport. Ce que l'étude appelle donc les pratiques sportives dérivant de cette culture. Et j'en ai repéré 3, peut-être, sans doute même, que vous les connaissez déjà. Alors, connaissez-vous la pratique du sabre laser Jedi ?
Oui !
Ah oui, oui !
C'est une discipline émanant directement de l'univers de Star Wars, évidemment, et rattachée récemment à la Fédération d'Escrime.
Oh la vache, ça ne savais pas, par contre.
Ça a été créé en 2006 à Milan. Il y a plus de 1200 pratiquants en France, pardon. Et la France, donc, qui a accueilli des compétitions internationales en 2015 et 2019.
Donc, il y a une fédération.
Ça fait partie de la fédération d'escrime.
Ouais. C'est fou.
Plusieurs écoles ont ouvert dans le pays et notre champion s'appelle Sébastien Bérard. Salut Seb.
Oh, salut Seb.
J'en suis sûr qu'il nous écoute.
Mais c'est certain. En 2005, des élèves d'une université de l'État du Vermont aux États-Unis décident de créer un Quidditch pour les moldus, les non-sorciers. Et même qu'il faut toujours faire passer le soif dans les anneaux pour gagner. Et il a fallu adapter certaines règles quand même.
Oui, parce que le vif d'or est un peu compliqué.
Oui, c'est ça. Donc ainsi, les batteurs ne protègent pas leurs équipiers des cognards, mais ils les utilisent pour, ils les utilisent pour immobiliser temporairement les joueurs adverses.
D'accord.
À la manière d'une espèce de ballot prisonnier. Mm-hmm. Le vif d'or existe toujours, mais en fait, il est remplacé par un mec qui court
c'est ce que je pensais.
Avec une chaussette contenant une balle de tennis dans le dos. Je vais s'imaginer le truc.
Je crois qu'il peut aller très très loin, genre à 500 mètres autour du terrain. Il peut
c'est possible. Pareil, là, je sais que t'es spécialiste sur ce genre de truc. Donc le but pour les attrapeurs, c'est d'attraper la balle de tennis. Voilà, alors contrairement au Quidditch classique où il faut attraper la petite balle en or qui vole. Et donc enfin, bien évidemment, les balais ne volent pas. Et c'est un peu décevant.
Ouais, c'est un peu dommage. Mais
Elon Musk est en train de bosser sur le truc, quoi, je pense. Ouais. Mais ils sont là pour handicaper les joueurs. Et donc le Quidditch est l'un des seuls sports à être mixte. Une Coupe du Monde se tient tous les deux ans depuis 2012 et a vu les USA s'imposer quatre fois de suite. La France a quant à elle remporté 3 des 4 Coupes d'Europe de Quidditch. Donc Cocorico, bah ouais, pas mal. Et enfin, le dernier, je l'ai gardé pour la fin, je suis sûr qu'il y en a un ou deux au moins à le connaître ici, c'est le chess boxing.
Ah oui,
c'est
génial,
c'est trop
échec,
bien.
Échec et bat.
Ouais. Voilà, donc, ce n'est pas qu'un sport, c'est bien en fait un mélange de deux disciplines. En effet, pour les besoins de Froid Équateur, le dernier volet de la trilogie Nicopole, paru en 92 aux éditions Casterman, mais également dans le but de critiquer une société obsédée par la performance, le scénariste et dessinateur reconnu Enki Bilal créa un sport mélangeant combat de boxe et partie d'échecs.
Ça, c'est génial.
C'est trop bien.
Donc en 2002...
Comme et en plus, ils retirent pas leurs gants entre les deux.
c'est ultra, ultra... Enfin, tu meurs à la fin. Ouais.
En 2002, un artiste islandais du nom de Jeppe Rubing organise le tout premier combat de chess boxing et crée dans le même temps une fédération internationale, la WCBO, World Chess Boxing Organization. Donc quelques années plus tard, Guillaume Salençon fondera la fédération française. Et un match de chess boxing dure environ une demi-heure. Il se compose de 6 parties d'échecs de 3 minutes.
Et de 6 rounds d'échecs, pas 6 parties.
Non, 6 parties.
Je pense que c'est en rounds.
Oui, t'as raison, ça. Oui, c'est en coups.
Oui.
Et de 5 rounds de boxe anglaise de la même durée intercalés tour à tour.
Ah, c'est pas les deux en même temps.
Non, c'est pas les deux en même temps.
Trop compliqué là.
Non, mais j'en ai regardé des trucs sur YouTube. Enfin,
c'est trop bien.
J'étais mort de rire.
Les mecs doivent être crevés.
Alors qu'en fait, tu devrais pas avoir envie de rire parce que c'est costaud ce qu'ils font quand même, les mecs. Quoi. Donc pour gagner, il faut soit mettre son adversaire à échec et mat, soit le mettre KO. Donc si t'es très fort en boxe, tu peux être un peu con, ça peut marcher quand même.
Ouais, c'est pas trop con pour pas se faire niquer en deux tours non plus. Quoi.
Ouais, faut savoir jouer trois coups de... Voilà. Bref, le sport inspire la pop culture inspire le sport, la boucle est bouclée. Enfilez vos baskets et vos maillots, ce soir la Dream Team est réunie. Les Galacticos ou les Galacticassos, on n'a pas encore tout à fait choisi.
Un bâtard.
De Pop Cruise vous en parle. Et je te repasse la parole, mon cher Charlie.
Merci beaucoup.
Merci, Pedro. Belle introduction.
C'est vrai qu'il y a de plus en plus de choses qui sont créées depuis des mangas, des machins.
Ouais.
Enfin, j'ai vu des trucs par rapport à des meufs qui foutent sur la gueule sur un truc de
bien. Rien que l'animation japonaise a décliné pratiquement tout ce qui existe. Déjà, sport, c'est pas faux. Jeannie Serge, l'école des champions, Olivier Tom.
Il y a du sport pour tout le monde. Il n'y a plus d'excuses de pas faire du sport. Mais d'ailleurs, en plus, ils réutilisent des trucs créés dans des mangas ou dans des BD ou dans autre. Et pour les créer en vrai, quoi.
J'ai mis les trois que je préférais.
Oui, t'as raison, il y en a d'autres.
Il y a des caisses de trucs, en fait.
Et du coup, après cette belle introduction, on va pouvoir se faire un petit quiz sur le sport.
Allez !
Je me flétris au contact du vent, sous mes poils gris, je sens le parmesan.
Stéphanie de Monaco.
Perdu ! C'est mes bites !
Elle est toujours trop bien celle-ci. Hein.
Oui.
Elle marche. Hein.
Elle marche très bien.
Elle marche bien.
On va la faire en deux parties. Maintenant, on n'est plus que trois, donc je peux plus faire d'équipe. De toute façon, ou alors, ce sera vous trois ensemble ou chacun pour votre pomme. De toute façon, ce sera chacun pour votre pomme.
De la coop.
Oui, c'est ça. C'est soit tous ensemble, soit les uns contre les autres. Et on va faire une première partie, ce sera des listes. Je vais vous donner un thème. Elles sont fermées, les listes. Et chacun à votre tour, vous allez essayer de me donner un truc de la liste. Un point à chaque fois que vous trouvez quelque chose. Dès que vous avez faux, vous sortez du round.
Ok.
tout simplement.
Ok. Ouais, d'accord.
Ok. Bah, de toute façon, le premier truc, donc, ça va être les épreuves du décathlon. Et ça va être Pépé qui va commencer.
La course à pied.
Non.
Sois peut-être un peu précis. Ouais,
précis
pas,
quand même, s'il te plaît.
Le 100 mètres.
Ouais, là, ça passe. C'est bon.
Bien joué.
Monsieur Angelo, je tourne dans ce sens-là.
Il y a l'équitation.
Non, perdu, vous êtes viré de ce round.
Ah, c'est éliminatoire.
Le lancer de javelot.
Ouais.
La natation.
Perdu. Il reste plus qu'au... Or, si tu veux en donner d'autres, Pedro, pour prendre du point.
Je sais pas.
Ouais, bah, je peux le lancer de marteau.
Perdu.
Ah, il y a pas.
C'est très nul.
Ah ouais, d'accord, ouais. Je pensais qu'il y avait.
Non, mais c'est très athlétisme. On va rester sur de l'athlétisme.
110 mètres haies.
Vas-y, dis-nous.
Donc, il y avait le 1500 mètres, 100 mètres, 110 mètres haies, 400 mètres, lancer du disque, lancer du javelot, lancer du poids.
Ah bah, le poids, c'est le marteau. Mais pardon.
Oui,
mais...
De toute façon, t'avais gagné.
Lancer le marteau, j'imagine un mec dans un RPG.
Ah non, 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 non,
non, non, c'est pas la même chose. Le marteau et le poids, c'est pas la même chose.
Le poids, c'est à bout de main.
Et l'autre, c'est pas. Le saut en hauteur et le saut en longueur.
J'étais parti sur les tapions, ouais, sur les trucs.
C'est, oui. Bah, c'est en fait, c'est toutes les statues grecques, c'est simple. C'est ça, comme ça.
Exactement.
C'est exactement.
Alors maintenant, on va commencer du coup par Angelo.
Ok.
Les écuries F1 en 2001, en 2021. Il y en a 10.
Oh putain, il m'a fait peur. Le coup. Bah, moi, je commence par Honda. Je commence par du récent.
Ben.
Honda.
Ouais.
En 2021.
Ben non.
Bah non.
Bah, ils sont en championnat du monde.
Oui, là, mais non, ils sont constructeurs moteurs.
Eh non, perdu. Oh, putain. J'étais là. Bah non, je l'ai pas.
Donc Red Bull Honda.
Oh, c'est dur.
C'est Red Bull Racing, ça s'appelle.
Oh, c'est dur. Red Bull
Racing. Moi, Red Bull,
je partais sur les constructeurs, moi, putain.
Ah bah, c'est les écuries en...
Ah non, non, c'est les écuries.
Ok, ok, ok.
Pépé, est-ce que t'en as eu?
Les écuries, c'est forcément une marque de voiture.
Bah, pas obligatoirement.
Pas obligatoirement une marque de voiture.
Ferrari Fanta.
Donc Ferrari, oui.
Ferrari,
excellent, très bonne vanne.
Vas-y, Pedro.
Ou j'allais dire une énorme bêtise. McLaren.
Ah oui, quand même. Oui, oui, oui.
Renault.
Attends, je sais même plus. Bah non.
Bah non.
Il n'y a plus Renault.
Il n'y a plus.
Parce que t'en as un petit
dernier. Dis pas. C'est ça que j'ai failli faire comme bêtise. Ouais. C'est Alpine en fait.
Ah voilà.
Ah putain.
Je t'en demande pas d'autres, comme ça tu prends un petit point de plus par rapport aux autres parce que t'es resté. Mais du coup, il y avait Alfa Romeo Racing,
ouais.
Ah, ouais.
Alfa Tauri, Alpine du coup,
ouais.
Aston Martin, Ferrari,
Mercedes,
AS F1 Team.
AS qui est le bon dernier.
Voilà. McLaren, Williams, Mercedes, Red Bull, c'est Williams.
Williams, ouais.
Et là, je pense que ça va être un peu plus facile. Il y a 22 possibilités.
Oh.
Et ça va être à Pedro de commencer pour cette fois. Les footballeurs de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde football masculin de 98.
Oh,
de 98
ouais.
De Saï.
De Saï. Oui, je suis con parce que j'aurais dû mettre par nom de famille, ça aurait été plus simple. Mais oui, très bien.
Lizarazu.
Oui.
Emmanuel Petit.
Oui, bien sûr.
Laurent Blanc.
Oui.
Fabien Barthez.
Oui.
Lilian Thuram.
C'est bien ça, c'est pas mal. On continue.
Zemden Zendan.
Oui, en dernier, il y
Guy Varche.
Ah, oh, mais oui.
Bien joué.
Il commence par la pépite. Si je dis pas de bêtises, Thierry Henry avait bien été sélectionné en 98.
Oui, et oui. Pas beaucoup joué, mais il était.
Ouais.
Démerdez-vous avec ça.
Ouais, c'est...
Là, si j'en ai un.
Vous avez encore plein, mais ouais, le problème, c'est de retrouver ce qu'ils ont.
Le bœuf. Ouais.
Oui, Frankie, pour qu'il va sans le restaurant.
C'était un rêve à réaliser.
Après, je suis pas trop sûr qu'il y était déjà, mais Trézéguet.
Si, il y était.
Trézéguet.
J'ai eu une hésitation juste avant.
Ah ouais, bah oui, même génération que Thierry Henry en même
c'est
temps.
C'est ça, mais est-ce qu'ils y étaient aussi
Makelele. Non, pardon, je pensais pas à Makelele, je pensais à Carambeu.
Oui, ok, c'est bon.
Monsieur Lama.
Oui, j'étais dans un. Tu prends pas trop les gardiens alors que.
Ah, Lama, dur, il y était.
Est-ce qu'il a été dit Laurent Blanc, il a été dit.
Ouais. Désolé, Pépé. Angelo.
Ça dégage.
Alors attends, je réfléchis par poste, moi, du coup.
Ouais, c'est ça.
Deschamps, il a été dit.
Non, il n'a pas été dit.
Allez. Il n'a pas été dit, ça, non.
Ah, ok.
Yuri Djorkaeff.
Ah oui,
aussi. Eh oui, Yuri Djorkaeff. Angelo, toujours.
Pedro avait dit le bœuf, hein.
Ouais, il ouais, était
peut-être. Okay, donc
ouais, mais vu qu'il a dit qui c'était, c'est vraiment...
Il en reste combien, là?
2, 4, 5, les gars, vous êtes pas mal, quand même.
Ouais, ouais. J'en ai.
Ah bon, t'en as encore?
Ouais, j'en ai. Moi, j'en ai.
L'étau se resserre, là.
J'en ai.
Dans la non, l'étau, je l'ai pas.
J'en ai au moins 2.
Attends, je réfléchis en attaque.
Allez, il va falloir être plus rapide.
Guy Verge, tu me l'as... Non, je l'aurais bien dit, Guy Verge, quoi.
Tu, bah, tu l'as dit.
Oh, attends. Ah, putain, le nom arménien.
Il y en avait un, il avait toujours
allez,
l'air
allez, too late, Angelo, c'est trop long, trop long. T'en as un petit dernier ou pas, Pedro, pour la...
Les 500 Candela.
Ah, je pensais pas.
Non.
Aussi
non, non, il était pas.
Ah, il était dans les pré-sélectionnés.
Peut-être dans les pré-sélectionnés.
Bah, attends, c'est pas grave, j'ai Pires, sinon.
Oui, mais t'avais.
Ah,
Pires, il était sélectionné en 90.
Ah, oui, bah, bien,
bien
sûr.
Bien sûr.
Bah, oui.
Putain, même
il y avait Alain Bogossian que vous avez.
Ouais, putain, c'était Bogossian que je voulais dire.
J'avais Bogossian aussi.
Bernard Diomède.
Diomède, je l'avais pas.
Dugarry, je sais pas s'il avait été dit ou pas.
Non, il a
non,
pas été dit.
Non, il a pas été dit.
C'est lui qui fait les fucks en plus.
Charbonnier, troisième gardien.
Charbonnier, troisième gardien. Je l'aurais pas tenté, j'aurais été ramé.
Patrick Vieira et Robert Pires qui
vont. Et Vieira, je savais pas s'il arrivait en 2000 ou en 90.
Charbonnier, le père de Charbonnier, le gardien actuel de Brest.
Possible, je sais pas. Ou alors c'est un homonyme.
Je sais pas, mais il doit en avoir plusieurs.
C'est Bogossian que je voulais dire là. Bogossian, harmonien. Arménien, enfin, quel vicieux.
Et on va se faire un petit jeu de la pâte à chaude pour finir. Avec, c'est avec Pedro qui va commencer. Il y aura deux rounds.
Chaude.
Je vais mettre un timer.
Eh, t'as pris des notes là un peu. C'est les points et tout là. Qui c'est qui gagne?
C'est toi qui as gagné la première partie.
Je crois que je suis en tête.
Et ben, Angelo, non, il t'a rattrapé avec les footballeurs du coup.
Allez.
Mais c'était surtout pour savoir qui va commencer. Donc c'est Pedro qui va commencer la deuxième partie.
Ok.
Je vais mettre un timer. Vous ne savez pas combien de temps il va durer. Des questions sur le sport. Des très simples, des un peu plus compliquées.
Oui. Mm-hmm.
Je te pose une question, Pedro. Si t'as bon, ça passe à Pépé, etc. Okay. etc.
Et si j'ai pas bon ?
Et si t'as pas bon, je te repose une autre question.
Ok.
Donc tu restes là. Meurs. Et en fait, à le moment où le timer sonne.
Ah oui, ok, je
c'est
l'ai...
celui-ci qui saute.
J'ai la blague.
D'accord ? Okay. Mmh, et on fera deux rounds, c'est-à-dire qu'une première partie, il y en a un qui est viré. Et la deuxième partie, ce sera une petite finale
c'est une
entre deux.
Une espèce de chaise musicale, quoi.
Ok.
J'ai 100 questions sur le sport. Donc normalement, ça devrait passer.
Oui, bah, okay, ça devrait
on a le droit de passer ?
Non, bah si tu passes.
Tu dis une mauvaise réponse.
Je donne mon tour.
Mais oui, oui, c'est l'idée.
C'est
parti.
Allez.
Combien de joueurs composent une équipe de rugby ?
15.
Alors, dans quel pays le volleyball a-t-il été inventé ?
La Suède.
Non. Lors d'une compétition sportive, combien d'équipes restent en course dans un 8e de finale ?
8.
Non. Quand on parle du Giro, de quel type de compétition parle-t-on ?
Le quoi ?
Le Giro.
Le Giro ? Je ne sais pas.
Oh non, c'était pas
après
moi.
L'équitation, le tir au pistolet, la natation et les cross-country, quelle est la 5e épreuve du patinathlon moderne ?
Le curling.
Non. Dans attends, quel milieu se déroule le film Jour de tonnerre ?
Je vais perdre, tu vas voir.
Quoi
dans quel milieu se déroule le film Jour de tonnerre ?
Oh, l'équitation ?
Non. Quel est le nom de la surface du Airbus sur laquelle se trouve le trou au golf ?
Il mérite de perdre. Arrête le timer, mais
ah, je l'ai plus. Le gazon. Le...
Non. Non. Quelle pièce d'échec peut faire un mouvement en forme de L ?
Le cavalier.
Ok, c'est bon. Quel est le nom maximum de rameurs en aviron ?
7.
Non. Cite un sport olympique réservé aux femmes.
Non, vas-y, je passe.
Ok. Quel sport a été invité par un pasteur canadien installé dans le Massachusetts ?
Basketball.
Yes.
Putain, c'est
quel est le nom de sport dans lequel on soulève de très lourdes charges ?
Le culturisme. Non. Le bodybuilding.
Trop tard. Quelle est la dernière ceinture que vous pouvez obtenir dans les arts martiaux ?
Noir.
Ok, c'est bon. Quel tir accompagne le ski de fond lors d'une épreuve de biathlon ?
Quel tir ?
Ouais.
Le tir à la carabine ?
Oui. Quel nageur d'élite a remporté 4 médailles d'or et 2 d'argent aux Jeux Olympiques de Londres 2012 ?
Michael Phelps ?
Oui. Cite deux nouveaux sports au JO de Tokyo 2020.
Putain, mais il s'arrête.
Oh la vache. Le BMX et...
Non. Comment s'appelle la technique la plus utilisée actuellement en saut hauteur ?
Le saut.
Quel est le surnom de l'équipe de... Ah, perdu,
merde,
Pedro.
Oui.
C'est abusé, Pépé, il méritait de perdre.
Oui, mais grave.
C'était stratégique.
Moi, j'ai cru que j'allais perdre à cause
le
de
Giro,
toi.
J'ai retenu la montre pour vous laisser.
Du coup, pour les nouveaux sports au JO, c'était surf, skateboard, karaté, escalade et baseball.
Basket à 3, mec.
Karaté.
Ouais. Bah, c'était d'ailleurs, il est pas pour la France.
Il était revenu.
Le saut, là, c'est le Fox quelque chose, je sais plus.
Fosbury. Le Fosbury.
Mais toi, tu sais des trucs comme ça, par contre, tu connais pas le Giro.
Non. Putain, le Giro, quoi.
Putain, le Fosbury, quoi.
Et si on te dit la grande boucle ?
Je crois que je pourrais vous faire les questions à la fin, les gars, pour le plaisir.
C'est quoi la question ?
Bah, c'est quoi la grande boucle ?
C'est quoi la grande boucle ?
C'est le Tour de France.
Ah, bah,
et le Giro.
C'est la petite boucle, c'est le
Tour d'Italie, c'est le Tour d'Italie et la Vuelta, okay. C'est le Tour d'Espagne.
Ah, okay.
C'est les trois grands tours.
Eh ouais.
Ah, mais attention. Non mais moi je me rends compte que c'est ça d'avoir un grand-père aussi qui passe ses dimanches devant la télé. C'est pas bon en fait pour la tête.
Ah, si, c'est bon.
Je devrais être comme toi normalement.
Bon les gars, on va finir quand même parce qu'il y a une petite finale du coup, enfin la finale entre Pépé et Angelo. Et on va commencer par Pépé.
Oh dur.
C'est très dur.
Mais t'es nul en sport Pépé.
Attention, prêt.
Go. Qui commence?
C'est toi Pépé.
Ok. T'as perdu.
Quel est le surnom de l'équipe de football d'Allemagne?
Les aigles.
Oh, mais non. Sérieux, il a pas ça quoi.
À quoi correspond l'acronyme KO?
Je te demande à revenir dans la compétition.
Knock out.
Combien de temps? Oui, c'est bon. Combien de temps effectif dure un match de football américain?
60 minutes.
Ouais. Quel était le numéro de maillot de Michael Jordan quand il évoluait avec les Chicago Bulls?
Le 13.
Un Lakers, mec. Le maillot des Lakers.
En quelle année se sont déroulés les JO de Sydney?
Il me tue. En 2000.
Oui, c'est bon.
Il va gagner en plus.
De combien de couleurs est composé le Rubik's Cube?
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Oui. Quel boxeur a été joué au cinéma par Will Smith?
Mohamed Ali.
Oui. Quel continent est représenté par le vert sur le drapeau des JO?
L'Océanie.
Oui. Comment appelle-t-on le chapeau que porte le cavalier pour se protéger des chutes?
Une bombe.
Oui. De combien de joueurs est composée une équipe de football australien?
Oh putain, un bâtard, 18.
Oui. Combien y a-t-il de personnes sur le terrain dans un match de football?
22.
Ça sonnait.
22. 23 avec l'arbitre.
Non. Putain, c'est pas trop tard, t'as dit 22, moi je prends la première.
Et surtout que...
Quel film montre la victoire des Springboks avec Matt Damon et Morgan Freeman?
Invictus.
C'est bon.
Invictus.
excuse-moi, Lala, j'ai fait une pause parce que je m'étais perdu. Ah c'est bon, je reviens. C'est bon. Que font généralement les spectateurs entre deux périodes de polo?
De polo?
De polo, excuse-moi.
Ah, de polo? Bah, il claque du fric dans des actions non. Chez Tesla.
Quel est le sport national au Japon?
Le baseball.
Ouais. Dans quel pays sont nées les fléchettes?
Alors, en Angleterre?
Oui. Putain. Combien de pays concourent au jeu des petits états d'Europe?
13.
Perdu.
J'en sais rien.
Dans Olive et Tom, quel est le poste de Tom?
Attaquant?
Non. C'est le gardien. Au tennis?
Oh, c'est moi!
C'est abusé, putain!
Ah c'est propre, c'est Pépé qui gagne ça.
Mais je suis un tueur en sport, je connais tout.
Non mais t'as vu les questions techniques que je me suis tapé à côté?
Si c'est ça la nouvelle mouture, je crois que je vais quitter ce podcast.
C'est abusé. Y a pas de justice ma bonne dame.
C'était beau.
Ouais.
Après je pourrais les faire.
Non, bravo.
Hors du truc. Il restait encore 75 questions les gars. Donc.
Au talent main, il nous l'a joué au talent.
Pour les auditeurs quand même, Pedro Angelo c'est ceux qui sont le plus calés en sport. De ce qu'ils nous font croire depuis des années.
Alors attends, qu'on soit bien clair. On n'a pas dit qu'on pratiquait. Enfin, moi, j'ai pas dit que je pratiquais. Angelo, encore un peu. Moi, je fais du canapping.
Bah voilà pour ce petit quiz.
Merci, Charlie.
Cool. Merci, Charlie.
On va pouvoir présenter les œuvres maintenant. Et allez. Ça va être Pedro qui va commencer.
Les œuvres, du coup, là, ça me pique un peu.
Ouais, ouais, il va nous parler d'un.
Mais... Bah, c'est une œuvre culturelle.
Il va parler d'un jeu vidéo qui est pas du tout connu du grand public.
Un petit truc.
Bah, ouais. Je te laisse la main.
Je crois que c'est le produit culturel le moins vendu au monde, un truc comme ça.
Je crois que c'est ça. Ma chronique s'appelle FIFA, c'est quoi? Que nous dit Wikipédia? Eh bien, que FIFA Football, également connu sous le nom de FIFA Soccer ou simplement FIFA, est le nom générique d'une série de jeux vidéo de football de type arcade et non de simulation.
Oui.
Et depuis l'introduction du mode Football Ultimate Team, Foot, en 2008, inclut des caractéristiques du gacha. Donc, édité à l'origine par Electronic Arts, en 93, et développé par la suite sous la forme d'une franchise.
Est-ce que pour l'auditeur, on peut dire ce que c'est que le gacha?
Oui, vas-y, tiens.
C'est les microtransactions payantes, en fait. C'est payé pour du contenu.
C'est ce que vous avez sur vos téléphones, sur beaucoup de jeux, d'ailleurs. Gros succès, les jeux de la série se sont vendus à plus de 100 millions d'exemplaires entre la création de la franchise et 2010. J'ai pas de chiffres plus récents et plus précis. FIFA Football 2005 est par ailleurs le dernier jeu à être sorti sur PlayStation, première du nom. Et on peut rajouter à la série principale les autres jeux qui couvrent des événements tels que la Coupe du Monde de la FIFA, le Championnat d'Europe et la Ligue des Champions de l'UEFA, ainsi que d'une série de titres de gestion de football appelés LFP Manager. Voilà, ça c'est pour la définition, grosso modo, dans son ensemble. Mais, et on en a parlé vaguement avant le podcast avec Angelo, selon moi, pour parler de FIFA, il faut également parler de PES.
Son ancien grand concurrent.
Voilà. Ouais, tout à fait.
Encore.
Puisque non. FIFA, en fait, c'est une success story née d'une rivalité. FIFA et PES totalisent à eux deux plus de 350 millions de jeux vendus en un peu plus de 20 ans.
C'est ouf.
ils sont les maîtres de la simulation footballistique. Il y a, c'est pas compliqué, il y a ces deux-là, et puis après, bah, vous connaissez qui, vous.
Football Manager.
Non, mais dans la simulation de jeu.
Mario Football.
Pas dans
le problème,
pas dans
c'est
la
que
gestion.
Je me rappelle plus du nom du petit jeu que j'avais sur Super Nintendo, je me rappelle plus.
Voilà. Ouais.
Kick
peut-être un truc.
Ah, Kick Out. Non, c'était
voilà. Géo. Non, mais vous vous en souvenez pas, tout simplement. Donc avec Madden et NBA 2K, ils font même partie des jeux de sport les plus vendus de tous les temps.
Bim.
Le premier édité par Electronic Arts donc voit le jour en 93 sous le nom FIFA International Soccer. C'est plus ou moins ce que je vous ai dit tout de suite déjà.
Ah ouais, parce que du coup ça faisait fils, après c'était pas loin de fils, donc ils ont changé le truc.
Attends, on y vient.
Est-ce que tu peux rappeler aussi à l'auditeur PES, ça veut dire quoi?
Excuse-moi. Le second développé par Konami, né en 95 sur Super Nintendo. Il s'appelait International Superstar Soccer à l'époque, ISS pour les
ouais,
Antilles.
Ça c'était bon ça.
Il change ensuite de nom et devient Pro Evolution Soccer. Donc même si les deux franchises ISS et PES cartonnent déjà bien, c'est sur la PS2 que le succès explose littéralement. PES séduit par sa réalisation et son gameplay hyper abouti. La série impose son style de jeu, le réalisme. Elle atteint son apogée avec PES 6, un jeu culte, le jeu culte pour toute une génération.
Oui, certains y jouent encore dessus.
En 2007, après avoir eu la possession pendant plusieurs années, PES est pris de vitesse par FIFA. Konami fait un mauvais contrôle à l'arrivée des PS3 et Xbox 360 et se prend un grand pont par eSports. Malgré ses qualités habituelles, PES 2008 déçoit énormément. De son côté, EA lit bien les plans de jeu de génération de consoles à venir. FIFA 8 propose alors, et là il faut que je change de page et je me suis mal démerdé, un gros volume sur le terrain avec des modes de jeu inédits, un multijoueur complet et un gameplay assez kiffant. Et donc de nombreux fans, dont moi, passe donc de PES à FIFA, qui devient la nouvelle référence en matière de simulation de football. Pour PES, c'est le début des blessures à répétition, les croisés, toi-même, tu sais, voilà, c'est un peu le Johan Gourcuff du jeu vidéo. Les Japonais ne rattraperont jamais vraiment leur retard. Et on en vient à mon dernier chapitre qui s'appelle « FIFA plie le match sur PS4 », puisque c'est désormais FIFA qui règne sur la pelouse et impose son rythme. Après avoir dominé la génération précédente en première mi-temps, le jeu d'Electronic Arts s'est attaqué à la PS4 et la Xbox One en immense favori. Et pour cela, ils se sont appuyés sur un gros contenu, une fanbase communautaire et multijoueur, et sur une réalisation grand spectacle. Un peu le football champagne, si vous voulez. Quoi.
Oui.
Le titre propose ainsi nombre d'équipes et de modes de jeu hallucinants. Tous les principaux championnats européens et ligues mondiales sont accessibles, comme la plupart des équipes nationales. Certains de ces modes sont devenus incontournables pour beaucoup de joueurs, comme FIFA Ultimate Team, ce que je vous disais tout à l'heure, foot, et Club Pro. Mais FIFA Ultimate Team, c'est un peu soumis à polémique et j'y viendrai à la fin.
Pour le coup, moi j'ai pas suivi jusque là. C'est un nouveau mode de jeu, genre foot en salle ou un truc
non,
comme ça, non?
C'est le gacha justement.
C'est la partie gacha.
C'est la partie gacha en fait. Tu achètes, mais
c'est pas un mode de jeu. C'est juste tu achètes des.
Alors, c'est un mode de jeu en ligne qui te permet de rencontrer d'autres joueurs, mais tu montes ton équipe en achetant des cartes un peu comme tu joues des cartes Pokémon à la récréation,
comme des Panini, mais avec un prix plus ou moins.
Oui,
voilà. Et donc tu achètes des packs et ça a créé une certaine polémique dont je vous parlerai enfin.
Juste bien le nom, mais qui arrive avec 2020 ou 2021, FIFA, le truc de A5 en salle.
Volta. Ouais, c'est depuis 2021, si je dis pas de bêtises.
C'est ça, en fait.
2019, bah, pardon.
C'est sur FIFA 20, donc c'est fin 2019, ouais, tout à fait. J'allais y venir, justement. Et d'ailleurs, c'est à la même année qu'ils ont récupéré la licence de la Ligue des Champions, piquée à Konami.
Ouf, oui, ça c'est bon.
Voilà. Ça fait mal.
Sur le terrain, FIFA impose franchement désormais maintenant bien ses règles. Récemment, PES annonçait de belles promesses avec eFootball, mais il se trouve que c'est une daube. C'est complètement flingué. Ouais. Bon, ils ont quand même réussi, au grand dam d'Angelo, à récupérer quelques licences, du Calcio notamment.
La Roma.
Voilà, donc si tu veux jouer avec la Juve, par exemple, ça s'appelle Piémont Calcio.
En gros, dans FIFA, t'as quasiment toutes les équipes du monde, sauf les quelques-unes qui sont rachetées par PES.
Ils sont en contrat exclusif avec Konami, c'est ça.
D'accord.
C'est ça, exactement. Ouais. Et c'est une histoire de gros sous, en fait. Hein, clairement,
oui, oui.
Hein, c'est des...
Ah bah c'est une histoire, oui, c'est ça.
Mais de gros sous.
Ouais, tu peux dire aussi que depuis cette année, là, FIFA 22, maintenant, ils ont aussi récupéré la Libertadores et la Copa América.
Notamment.
Ouais, donc, du coup, maintenant, ils ont la Ligue des Champions et Sud-Américaine.
Peut-être que PES, ils vont revenir, parce que je crois qu'ils ont complètement changé leur modèle économique.
Ils peuvent pas lutter en termes
de... Ça va devenir gratuit, ou peut-être que...
C'est très spécial. Non, en fait, c'est gratuit, mais c'est du gacha.
C'est ça.
C'est ce ouais, que... Du coup, c'est que ça marche que là-dessus. Quoi.
C'est, et tu vois, c'est ce que tend à faire eSports.
Ils n'ont pas sorti de nouveaux jeux cette année. En fait, ils ont fait, par exemple, une simple mise à jour de leur jeu de l'année dernière, par exemple.
Et c'est ce que tend à faire eSports. Il semblerait que FIFA. J'arrête parce que peut-être que.
Non, je n'irai pas d'ailleurs beaucoup plus loin là-dessus. D'accord, parce que PES ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéressait, c'était FIFA. Mais
il semblerait que FIFA 22 soit le dernier FIFA. Et qu'à partir de là, ils intégreraient le même modèle économique que Konami, qui serait en fait...
C'est pas même... prouvé quand même. Mais...
Bah, c'est dans les papiers.
On en parle. Et du coup, il y a un petit peu de moins bien quand même du côté FIFA, il faut en parler. Et ça, bon, ça tendrait à te donner peut-être un petit peu raison. Puisque le jeu est aussi la cible de critiques pour son gameplay, qui a longtemps été pourtant vraiment ce qu'on mettait en avant. Il évolue plus en fait tellement depuis l'apparition du mode foot. Parce que Electronic Arts préfère investir dans le mode de jeu en ligne
que dans la correction
de gacha parce que ça rapporte la modique somme d'un petit peu plus d'un milliard de dollars par trimestre.
Ah, c'est normal.
Voilà.
Un donc, milliard par trimestre.
Mais bon, c'est normalement parce que chez moi c'est une petite semaine, mais bon, après.
Tout l'argent est payé en roubles, toi.
sans les commissions.
Tout l'argent en fait qu'ils utilisent à développer ces modes de jeu, c'est de l'argent qu'ils mettent pas aussi sur le gameplay. C'est vrai que c'est, c'est dommage parce que quand on voit l'évolution de certains jeux vidéo. Ces 10 dernières années, on se dit qu'ils ont, enfin, eux clairement, ils se sont mis
dans les fouilles. Peau, quoi. Puis comme ils ont tué la concurrence, ils en foutent.
Bah oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Il y a aussi des petits soucis de serveurs en ligne qui subissent régulièrement des ralentissements ou des déconnexions. Bon après, je pense que ça c'est plus la rançon du succès parce qu'on est tellement nombreux à jouer que là, j'ai racheté une console exprès pour acheter le 2021 par exemple.
Tu joues en ligne toi par exemple à FIFA ?
Non, pas encore. Non. Je m'y étais pas mis. Parce là, je vais m'y mettre.
Moi, tous les FIFA auxquels j'ai joué, c'est au final pour toujours jouer à la même chose, c'est-à-dire le mode carrière solo où tu te fais toi-même et tu fais toute ta vie avec Angesco et t'es.
T'es
arrivé à la saison 2137.
C'est ça. T'es du genre à avoir des monochromes de White Man chez toi, toi non ? Ok, alors on revient un petit peu sur le problème du mode foot. Alors non, avant ça, je vous disais tout de suite que le gameplay n'avait pas beaucoup évolué. Je me suis permis, là j'ai sous les yeux, je ne vais pas tous vous les faire parce que c'est particulièrement long, mais toutes les évolutions au fil des ans du jeu. Et par exemple, vous voyez, en 94, on a pour Soccer 95...
La 3D.
Non, le mode multijoueur.
Ah déjà.
Voilà, déjà. Je vais prendre un petit peu plus loin. En 98, rien.
Mais pourtant FIFA 98, il me semble c'est qu'il était un des plus clairs.
Justement, ils ont juste géré les bugs.
Je crois que c'est le dernier FIFA que j'ai fait, quoi.
Parce qu'il a la Coupe du Monde 98 et c'est pour ça qu'il est.
Ah, plus, c'est pour ça.
Ouais, exactement. Alors non, ça c'est tu confonds peut-être avec
Road to the World Cup.
Road to the World Cup.
Avec la musique de. Est-ce que tu peux me rappeler la musique
Je sais pas.
Blur.
Je sais pas. C'est la première fois qu'il faisait une commande à un groupe. Ouais. On a l'apparition des divisions secondaires en 2004. On a une refonte complète du moteur du jeu en 2005. On a la Ligue Interactive qui arrive en 2007. On a le mode de jeu BE Pro, hein, où tu peux incarner un joueur, donc a changé de nom depuis, mais ce dont tu parlais tout à l'heure, en 2008. Et depuis, en fait, eh ben, ils se sont concentrés. Alors, je ne vais pas tout vous les faire, mais depuis, on voit bien qu'ils se sont concentrés sur tout ce qui est en ligne, quasiment. Il y a eu quelques modifications sur les moteurs du jeu, mais essentiellement, ils ont créé des modes de jeu en ligne, de ligue, de choses comme ça, donc ils sont vraiment portés sur ce sujet-là. Et ça pose un léger problème, puisqu'en février 2020, l'éditeur est poursuivi en justice par deux avocats français pour son mode de jeu FIFA Ultimate Team. En effet, celui-ci est attaqué pour tromperie et jeu d'argent non réglementé. D'une part, plusieurs utilisateurs ayant dépensé plusieurs milliers d'euros.
La vache,
et ça compte. Et ils disent plusieurs utilisateurs, mais... C'est beaucoup d'utilisateurs. Oui.
Quelques utilisateurs dans le monde.
Ils affirment avoir été trompés n'ayant jamais eu la carte du joueur légendaire promise par la publicité. Parce que normalement, t'as toujours une carte légende où tu peux te retrouver avec Maradona, Pelé, des mecs qui touchent des 97-98 dans le jeu, et qui sont imbattables.
Les mecs, ils ont dépensé des milliers d'euros avant de se dire que, attends, peut-être que je me fais avoir.
C'est clair.
Oui, Pépé.
Mais ils n'ont pas ta sagesse en même temps, tu vois.
Peut-être c'est des enfants qui avaient volé la carte à papa, quoi.
Il y en a, ça, dans le tas, c'est sûr.
Moi, c'est même sûr.
Dans le tas, c'est certain. Il y a des parents qui ont dû recevoir des notes salées d'Internet.
Ouais, mais normalement, tu peux dire non, c'était pas moi, et du coup, ça revient en arrière. Normalement, si c'est bien fait, et si c'est pas fait, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi se prendre un petit justice là-dessus.
L'histoire ne l'explique pas. Mais d'autre part, le jeu comporte un système de dépenses d'achat réel avec jeu de hasard, et il est pas soumis à la législation, en fait. Ouais. Donc, ça serait bien de pouvoir l'interdire quand même aux mineurs de moins de 18 ans. En Belgique, à la suite d'une décision du tribunal, d'ailleurs, les achats avec monnaie réelle ont été clôturés. Certaines accusations portaient aussi sur le système de mise à jour qui rendrait des joueurs moins bons pendant les matchs afin qu'ils les revendent pour des joueurs plus attractifs. C'est sympa, tu vois. T'as pas du tout besoin de te faire niquer quand ça tu joues à ça.
Et c'est, ouais, c'est, tu disais que c'était Electronic Arts.
Ouais,
ouais, ouais, mais ouais, c'est les mêmes enculés pour, hein, sur Star Wars Battlefront.
Exactement.
Exactement.
C'était au même moment, la même polémique.
Et c'est le même modèle économique.
Ah, les, ouais, les
EA Sports again. Dans ton cul, ouais. À la suite de cette plainte, donc, plusieurs vidéastes, dont certains anciens partenaires d'Electronic Arts, sont pris à partie, ont pris le parti des avocats, pardon, pour mettre en garde vis-à-vis de ce système de jeu qu'ils considèrent comme malsain et éloigné de ce que doit être un jeu de football sur console. Et je suis assez d'accord.
Tu sais, ouais, tu sais ce qu'ont dit les producteurs d'EA Sports très récemment, il y a quelques semaines, je l'ai lu.
Non, pas du
ils
tout.
Ont dit que le mode de jeu foot, donc le mode de jeu gacha sur lequel tu achètes des cartes pour, ouais, gagner, c'est du pay to win, quoi, représentait bien pour eux le monde du football, puisque en effet plus tu as d'argent et plus tu es susceptible de gagner, ils l'ont dit comme
bon,
ça.
Bah, c'est une très bonne simulation. Alors
Jean-Michel Cynique, voilà quoi.
C'est vrai, ça, c'est vrai que ça me manque de rêve quand, ouais, même. Mais bon, et on va terminer par un petit jeu si vous me laissez encore quelques instants.
Bah, allez, bah,
en temps, je pense que ça va être vite vu, je sais pas pourquoi. Vous avez tous un petit peu joué quand même à FIFA?
Oui.
Moi ça fait longtemps.
Ça fait longtemps, mais un petit peu.
Oui, oui, bah, je pense que je vous mets votre branlée quand même. Mais...
Oh, alors ça, alors tu sais que ça, on en a
mais
déjà
tu
parlé.
Tu l'as déjà dit ça. Non, ouais, en fait, c'est jamais arrivé.
On t'attend. On a jamais joué
avec, ah ouais, le FC Nantes contre le SCO.
Ah oui, oui, c'est ça, vrai que c'était prévu.
Ça, j'attends.
On va, bah, du coup.
Mais moi, je suis joueur de PS.
On va devoir. Se... Bah, voyons.
Allez, bonne chance.
C'est ce que disent tous les mecs quand ils jouent à FIFA et qu'ils perdent.
J'ai toujours des problèmes de manette.
Ouais, mais j'étais pas en mode alternatif, mec. Bon, alors, j'ai sous les yeux la liste de tous les commentateurs du jeu en France.
Oh merde.
Il y en a 12 en tout.
12.
Sur plus de 20 jeux. Il y en a qui sont revenus plusieurs fois. Et il y en a des faciles et il y en a des improbables.
Que FIFA ou FIFA et PES?
Non, non, que FIFA. Que, oh, FIFA. Putain, et il y en a des improbables. Alors, essayez d'en choper un ou deux. Il y en a, j'ai mis un point, d'autres deux points. Et il y en a un qui vaut 5 points, les gars. Il y en a,
ouais,
un
y
qui
a...
son pesant de caca.
Il y en a un que je sais qui faisait des voix dedans. On verra.
Et, ouais, et ça se trouve, c'est toi qui chope les 5 points, ouais, avec ton air à la con, là. Je te vois bien me l'annoncer.
Allez, vas-y.
Allez, c'est parti, les gars.
Jean-Michel Larquet.
Il n'y a pas... Attends, je vérifie, mais il n'y a, allez, pas de Jean-Michel,
oh,
Larquet.
Oh, Pierre Ménès.
Il y a Pierre Ménès, et tu prends donc un point, Angelo.
Jean-Luc Reichmann.
Non.
Et Charlie vient de prendre 5 points.
Allez, mais sérieux, ouais. À quel moment?
Jean-Luc Reichmann, ouais, oui, Jean-Luc Reichmann était avec d'autres.
C'est dans les années 2000, en plus, 98-2000.
98, 99, 2000, 2001.
Ah ouais, plus, il n'a jamais fait du journalisme sportif.
Eh bah, peut-être que bah, si, ouais, mais il en vient, en fait.
J'entends un Nagui. Drucker.
Non, là, bah non.
Hervé Matou,
et c'est un nouveau point pour Angelo.
Roland, Thierry Roland.
Thierry Roland, c'est un nom. Ah.
Comment il s'appelait?
Ah, Bizarrazou, je crois qu'il a fait. Là.
Non.
Eh bien non.
Le commentateur
à la télé pour de vrai.
Le commentateur, ouais, de Canal qui est mort, qui avait une voix cassée, qui était méga.
Eh bah trouve-le.
Oh putain, il va pas me le donner.
Ah,
tu bah sais, non, tu sais, tu sais que je sais.
Bah oui, je sais que tu sais.
Gilardi.
Allez, il est bon, Gilardi, tu l'as.
Allez.
Un point de plus, parce que Gilardi était facile quand même.
Ouais. Non, mais ça rattrape pas les 1000 points de Chacha avec son Jean-Luc Reichmann.
Moi, je suis précis dans ma culture.
C'est pour ça, j'avais mis...
Sardou.
Michel
non,
Sardou.
Non, pas Sardou. Non, mais continuez de trouver. Il y a de l'ancien joueur, il y a de l'ancien entraîneur, il y a du...
Bogossian, Guy Varche.
Non, allez, je vous ai...
Thuram.
Franck Leboeuf.
Non, pas Bogossian, pas Thuram, pas Leboeuf.
Anelka.
Pas Anelka, je vous donne... Non, mais réfléchissez quand même à des mecs qui potentiellement... À qui EA aurait envie de donner du pognon. Il faut pas des gars, tu vois...
Zinedine Zidane, mais c'est pas possible.
Non,
pas
Zidane. Justement, mais... Vas-y.
Allez, je vous donne un indice pour un mec, un type, une voix de légende de RTL.
Oh, Philippe Bouvard.
Non, Sacomano.
Comment tu dis?
Sacomano.
Oh,
hey, non,
c'est Charlie.
Oh oui, oh, mais sérieux.
Il faut être précis, il faut être précis. Sacomano, c'est 2 points.
Ah, comment je chope des points sortis nulle part.
Les achouaves.
Allez, je vous aide. Il y en a un qui a été commentateur sur TF1 longtemps.
Oh, Pascal Pro. Non,
pardon.
Alain Gilles Pétré.
Sur Canal longtemps et sur TF1 maintenant.
Ah, je suis passé près.
Ah, putain, celui qui a que des prénoms. Philippe Jean-Pierre.
Non, c'est pas lui. C'est Christian Jean-Pierre, mais c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Allez, je vous en donne un autre. Un des premiers footballeurs français à avoir fait son coming out.
Oh, il a un nom indien.
Non, pas du tout.
Mais si, j'allais dire Dalsim, mais c'est pas ça.
Trop pas en plus. Genre, il a un prénom.
Mais il fait partie de la génération 2000.
Ultra normand, breton, sartois, si tu veux, mais
ah
non.
Ah ouais, ah bon, on parle pas du même.
Gourcuff. Non, allez. Vous abandonnez ?
Ouais, bah moi j'aurais pas.
J'en sais rien.
Allez, je vous donne les derniers. Il y avait David Ginola, vous auriez pu me citer.
Ah oui, David Ginola, on n'aurait
pas pensé.
Il y avait Laurent Paganelli.
Paganelli, on aurait pu.
Petite voix marseillaise de Canal+. Ouais. Et il y avait Olivier Rouillet, donc qui est l'un des premiers footballeurs français à avoir
fait jamais je rien.
Ah non, moi je pensais pas lui.
Et donc qui a permis à pas mal de joueurs derrière lui de pouvoir.
Mais je pense que ça fait Indien du Sud. Je pense que c'est Indien du Sud le nom.
Ouais, c'est ça. Rouillera de la.
Et non, mais je trouverais pas. C'est, tu sais, génération 2008, ceux qui filmaient l'équipe de France dans les vestiaires, qui c'était. Tu vois pas ?
Ah, Dorasso, Vicage Dorasso.
Vicage Dorasso.
Ah, oui, on a jamais. Grégoire Margoton. Donc vous m'avez pas cité.
Ah oui.
Rémy Garde, il voit les trois points parce que Rémy Garde, personne le connaît en fait. Ce type a été entraîneur de Lyon 2-3 ans, c'est tout.
Trop dommage que Margoton il soit plus du coup.
Oui. Il a été que une année Margoton, que je te le retrouve en même temps que non, il a été deux. 3 ans pardon. Mm-hmm. En même temps qu'Olivier Rouillet en 2003, en 2004 et 2005 avec Rémy Garde.
D'accord.
Voilà, on avait Franck Sauzet également, Franck Sauzet qui a fait je sais pas moi une dizaine d'éditions. Et puis Paul Le Guen, qui a fait deux éditions. D'accord. Voilà. Et donc, c'est une victoire écrasante de Chacha par 7
mais
points.
Tu les as tous fait, les FIFA.
Et c'est dommage, parce que si tu marquais Sacomano et que tu m'avais pas dit Tacomano,
j'ai dit Pacomano,
Manomano.
Celui-ci, j'ai été le choper avec honnêteté et justice.
Ça faisait 5-5, mais voilà. Il y avait un petit truc
sur FIFA aussi. Maintenant, il y a les clubs pro, comme tu dis, et sur Twitch. Il y a les Croutons qui ont une équipe, il y a le FC Silmi, où c'est plein de Twitchers très très connus. Donc t'as Ponce, Rivenzi, Mister MV, JDG, Étoile, Domingo, Rivenzi. Enfin, ils sont vrais, et du coup, c'est des gros de Twitch de France. Et ils font leur équipe tous les lundis soirs, ils font 5 ou 6 heures de club pro.
C'est cool.
Et le FC Silmi, du coup, il s'appelle.
Ouais, club pro, c'est un truc, je m'y suis pas encore frotté, mais autant foot m'intéresse pas du tout, autant club pro peut-être.
Ouais. Est-ce que Jean-Luc Lahaye a commenté FIFA?
Alors, Jean-Luc Lahaye.
Non, lui, il est pas. Il a pas la mentalité.
Non, parce qu'en plus, il y a tellement de blagues en rapport avec le sport à faire qu'on va pas les faire.
Pas du tout, non. Bah, merci beaucoup, Pedro.
Ouais, c'était
merci
top.
Pour merci cette Pedro. Présentation FIFA, on a pris plein PES, la totale. On va passer à la deuxième œuvre.
Et oui.
Et en plus, il n'arrête pas de causer depuis tout à l'heure, comme ça, il aura le droit. Et du coup, tu m'as présenté un petit documentaire Netflix. Et exactement.
Oui,
je te laisse la main, vas-y.
Une fois, pour une fois, je vais vous proposer quelque chose fait par Netflix, pour Netflix et sur Netflix. Donc, ça s'appelle The Last Dance. Est-ce que vous avez entendu parler de The Last Dance ?
Oui.
J'ai pas vu, mais j'ai entendu parler.
Entendu parler.
Et... Ah, mais que du positif. Tout le monde disait que c'était bien. Ouais. Mais j'ai pas pris le temps de regarder.
Ça me l'a pas rendu très sympathique. Mais oui, j'ai bien aimé le.
C'est très bien que tu lises parce que justement, on va développer tous ensemble. donc, quelques données. Pour commencer, évidemment. Et puis, bon, vous savez comment je fonctionne. Donc, en deux parties.
trois paragraphes.
Voilà. De quoi est-il question ? Évidemment, vous expliquer justement les copains et vous auditeurs en quoi consiste cette mini-série et puis la deuxième partie, pourquoi vous la recommandez, surtout pourquoi je vous en parle. Donc quelques données, donc c'est une mini-série de 10 épisodes sortie en avril 2020 sur Netflix, donc cette date concorde avec son succès monstrueux aux États-Unis puisqu'elle est sortie en pleine période de confinement avec une autre mini-série Netflix, si vous avez entendu parler, alors en anglais c'est Tiger King, au royaume des fauves, vous en avez entendu parler de ça aussi ?
Oui.
Ça c'est aussi quelque chose, c'était les deux trucs de Netflix que j'ai mangé.
Pas sympathique.
Alors non, et c'est striptease, si vous ne savez pas de quoi ça, c'est striptease aux États-Unis chez les rednecks, mais c'est très glauque, mais c'est fascinant. Bon, bref, je reviens sur The Last Dance. The Last Dance, ça veut dire quoi ?
La dernière danse.
La dernière danse, c'est ça. C'est en fait le nom
de la chanson de Kyo.
Oh.
Je veux juste une dernière danse.
Arrête-les, je savais,
avant
pas toi.
Avant l'ombre et la différence.
T'as un passé douteux, toi. T'as été un peu gothique, un peu, non ?
Allez, je fais tout l'album.
C'est Bon, vous avez bien compris, donc c'est la dernière danse. Il s'agit en fait du nom de code utilisé par Phil Jackson, à l'époque entraîneur des Chicago Bulls. Non, Pedro ne pète pas assez qu'il ouvre une bouteille de coca.
Quelle élégance.
Ouais, donc c'est le nom de code, pardon, excusez-moi, utilisé par Phil Jackson, l'entraîneur des Chicago Bulls, pour qualifier sa dernière saison, donc à l'époque celle de 1997 en 1998, avec la dynastie de MJ, Michael Jordan,
avant que le directeur sportif, Jerry Krause, ne se décide à restructurer complètement l'équipe pour préparer une nouvelle génération. Au grand dam d'ailleurs des supporters de la franchise et de l'équipe elle-même. Donc la série, elle parle de quoi ? Bah, elle permet un regard presque intimiste au spectateur qui accède à une synthèse de plus de 500 heures de films inédites d'une équipe de tournage ayant suivi l'équipe lors de cette saison, coupée par de multiples entretiens avec différents joueurs, journalistes et autres personnalités du monde de la NBA. Elle met en lumière différentes tensions restées auparavant secrètes au sein des Bulls, les tensions par exemple entre Jerry Krause, donc le directeur sportif, et le reste de l'équipe, la sous-évaluation des salaires de certains joueurs, l'attitude tyrannique de MJ, la pression insupportable des médias sur l'équipe et sur MJ en particulier, l'incertitude d'accéder à un dernier titre tous ensemble avec des résultats sportifs en dents de scie, sans compter les soucis physiques, etc., etc. Attention, tout ce que je viens de vous dire n'est que le fil conducteur principal, il y en a un autre, la vie et la carrière de MJ en fond, de son enfance jusqu'à justement cette dernière saison, dernière danse de sa carrière.
Est-ce que t'as dit qui c'était MJ ?
Oui, est-ce qu'il y a je vous l'ai dit dès le début, Michael
j'étais
Jordan.
Pas sûr en fait, j'étais plus sûr.
Oui, il y a un autre MJ, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ce MJ-là.
Comme t'aimes bien les deux.
Je suis pas, les gars, il l'a dit.
Mais justement, j'étais plus sûr. Merde, attends, je sais plus s'il l'a dit.
Si, Michael Douglas Jordan, donc MJ Michael Jordan. Donc, le spectateur n'a pas que l'aspect sportif et extra-sportif de la franchise, mais également justement un portrait intimiste et parfois exclusif de la vie de MJ, qui, je le rappelle, est considéré comme le plus grand basketteur ainsi qu'un des plus grands athlètes tout court de tous les temps. Donc, pourquoi je vous recommande cette mini-série ? D'abord pour sa réalisation et son montage qui ont été, pour moi, complètement maîtrisés. C'est assez dingue à regarder. Alors, même si vous n'aimez pas le basket en particulier, et si vous n'aimez pas
c'est
le sport...
C'est pour ça que j'ai pas regardé, moi.
Et si vous n'aimez pas le sport en général...
J'aime pas le sport, j'aime pas la télé.
J'aime pas la vie, bordel.
Eh ben, c'est pour toi, cette série. Elle est pour toi, cette série. Parce que le spectateur est tellement rapidement et complètement happé par les enjeux, les tensions et tout l'environnement sportif qui se met en place et qui s'explique très bien par les extraits et les entretiens au fil des épisodes. Il y a cette sensation de suspense constant et d'incertitude pour des événements qui se sont pourtant passés il y a 23 ans au moment où j'enregistre avec vous, les copains. Et ça, c'est réussi. Même si vous n'aimez pas particulièrement le basket, justement, et le sport en général, vous aimerez, justement, pour le côté contextuel exclusif et les enjeux, ainsi que le côté intimiste et le montage qui est ultra maîtrisé. Une autre raison qui est plus personnelle pour moi, donc le rappel d'une époque de l'enfance, c'est-à-dire les années 80 et 90, qui concorde avec le début de la carrière de MJ, qui, je vous le rappelle, commence en 1984. Profitons d'ailleurs de parler de cette époque pour évoquer la bande-son de cette série qui est exceptionnelle, que du hip-hop et du groove à leur âge d'or. Eric B et Rakim, Black Sheep, Naughty by Nature, etc. Chacha, extrait, s'il te plaît. Yeah.
Ah, c'est bon ça. Attends que ça parte.
Merci Chacha.
Et du coup, juste une petite question. Oui. Ils ont pris que des groupes qui viennent du côté du coin des Chicago Bulls, enfin de par là-bas ou pas spécialement ?
Non, pas spécialement. C'est juste des groupes et des artistes ancrés dans l'époque du documentaire. Donc voilà, là ce que vous avez entendu, quand vous avez ça en fond sur des montages avec le grain et les couleurs de l'époque et MJ qui claque un dunk dans un stade en folie, bim, la Madeleine de Proust. Le kiff, juste le gros kiff. Une petite phrase extra pour parler du deuxième extrait. Le deuxième extrait, en fait, que j'ai découvert, enfin, que je redécouvert justement en regardant cette série, je ne savais pas, un morceau de... Alors, est-ce que vous connaissez de Alan Parsons Project ?
Oui.
Un groupe de rock britannique.
I am the eye in the sky.
Et ben, en fait, ils avaient composé...
Ça faisait partie de... J'avais Michel Fugain aussi, ça. J'avais aussi ça, on en a parlé au début, mais...
Et ben, ce groupe avait composé, en fait, dans ce même album de ce que je viens de vous brailler là, un morceau instrumental qui est en fait devenu le morceau officiel des Bulls quand les joueurs entrent dans le stade, et c'est mythique. Chacha, extrait numéro 2.
Extrait numéro 2. C'est Europe.
Ah ouais, c'est vrai.
Mais un feu d'artifice.
Ils entrent dans le noir.
Ah, ça doit être classe comme
entrée. Le stade est en folie. Et t'as MJ, que des mecs de 2 mètres, 2 mètres 10 qui rentrent avec des énormes épaules avec le ballon.
Par contre, vraiment, elle est réutilisée partout. Football américain, bah, tout voilà. Ce que tu veux, en pour fait, les entrées depuis... des mecs tout le temps.
Depuis, ça a été réutilisé par plein d'autres franchises et plein de sports en règle générale. Et en fait, et
ça a été composé.
C'est le truc des Bulls. Office.
Ah, c'était vraiment le truc des Bulls. Ah, parce que c'est réutilisé partout
maintenant. Bah non, c'est réutilisé partout, mais en fait, c'est les Bulls qui ont popularisé ça dans le sport.
Parce que là, tu fais juste monter le stade et t'attends qu'ils arrivent là.
Et quand j'ai écouté ça, c'est dans le premier épisode que tu découvres ça et tu dis, mais oh, l'ambiance est juste incroyable.
Ça me fait penser. En beaucoup moins classe, hein, quand même.
Fond, pas...
ouais. Mais tu vois, t'es déjà venu avec moi plusieurs fois, toi aussi, Pépé, au Horizon Park, on a le. On a une espèce de montée comme ça aussi avec le morceau de Justice Fantôme.
Ah, ça met l'ambiance.
Ouais, c'est pas mal ça. J'aime bien ce genre de.
C'est cool. Merci Chacha encore pour l'extra animé. Numéro 2, pardon. Donc voilà, bref, une bande-son aux petits oignons, les copains. Donc voilà. Une autre raison, encore une fois, le rappel également du caractère extraordinaire, extra-sportif, extraterrestre même de MJ, qui pourrait à lui tout seul se définir comme une icône culturelle du XXe siècle. Alors, parenthèse justement pour vous expliquer le contraste avec les sportifs d'aujourd'hui, c'est-à-dire les Messi, les Ronaldo, qui sont des extraterrestres dans leur sport. Mais Michael Jordan, à l'époque, était un produit culturel qui s'exportait dans le monde. Juste quelques chiffres que
le
je...
Le mec a inventé une chaussure presque, quand même.
Bah, par exemple. Je vais vous expliquer
en fait,
tout
il
ça.
En fait, il a fait la fortune de Nike, ce mec.
Entre autres, alors quelques données pour vous, auditeurs, que la série, et dont parmi les gens de la série, il y a Barack Obama, qu'il rappelle et qu'il n'oublie pas de développer pour bien faire comprendre aux spectateurs que MJ était quelque chose de hors du commun. D'ailleurs, il y a un moment, le premier épisode commence par Michael Jordan quand ils font une tournée vite fait à Paris où le mec est attendu comme le pape. Il passe sur nulle part ailleurs. Enfin, c'est incroyable. Enfin, c'est juste dingue. Donc, MJ, Barack Obama, c'est simple, il dit que c'est une arme de soft power américaine. Bon, voilà. Okay. Avant MJ, par exemple, pour les Chicago Bulls, c'est zéro trophée. Les Chicago Bulls, en 1983, c'était une franchise qui sentait le sapin. La franchise des Bulls considérait partir de Chicago puisqu'elle n'était même plus rentable. Après MJ, la NBA... après MJ, ce sera deux triplés de champions. Donc les Chicago Bulls seront six fois champions de NBA. Donc deviendront parmi les franchises les plus titrées de NBA. Et puis c'est surtout qu'il épinglera à jamais Chicago comme une ville de basketball, alors que ça n'était pas du tout le cas avant qu'il arrive en 84.
On est né à une époque tous
où il était à l'âge d'or.
si, pardon, excuse-moi.
Était à l'âge d'or.
Clairement, enfin les Bulls c'était l'équipe de basket.
C'était un truc incroyable. Ils écrasaient la concurrence. Donc, deux triplés de champion, Chicago qui sera jamais ancré dans le monde du basket. Avant MJ, la NBA, elle s'exporte dans moins de 100 pays. Alors il me semble que c'est 97-98 quand MJ quitte les Bulls en 98. Elle s'exporte dans 215 pays. Voilà. MJ participe également, dès son premier partenariat avec Nike, à asseoir la suprématie de la marque à la fin des années 80. C'est-à-dire que quand il signe justement pour les premières Air Jordan, Nike signe son plus gros contrat. Il vendra...
C'est la première fois qu'il signe un sportif.
Voilà, avec un énorme cachet. C'est la première fois qu'il vend autant de pompes dans le monde. Et c'est là qu'il accède au statut d'icône culturelle parce qu'il sera avec Spike Lee. Il fera des pubs avec Coca, avec McDonald's. Évidemment, plus tard, on parlera de Space Jam.
Ah putain, j'attendais, quand est-ce qu'on va en parler de ça, putain.
Avec la Warner, mais oui. Voilà, et je ne vous parle même pas de ces statistiques sportives, parce qu'il me faudrait une chronique pour ça, donc elles sont d'un autre univers. Je vous laisse pour ça, d'ailleurs, regarder, savourer la série. Une seule nuance à apporter, et justement, ça revient sur ce que tu disais au début. On voit l'aspect humain d'MJ, on voit le côté tyrannique pendant les entraînements, parce que c'est un perfectionniste plus, donc... il n'acceptait aucune médiocrité dans l'équipe et donc des fois
c'est un mec qui voulait écraser ses adversaires,
la concurrence,
quoi.
Sauf que alors, si tu veux, il avait sa propre version de ce qui est médiocre ou pas, quoi.
Voilà, ouais. Alors
en fonction de si t'es son pote ou pas aussi,
justement, quoi. Donc cette nuance à apporter que j'apporte vis-à-vis de cette série et que vous pouvez retrouver dans certaines critiques américaines. Donc il faut savoir que l'édition et la prod de cette série ont été faites avec le consentement de Michael Jordan, donc on se retrouve avec une œuvre documentaire de très très bonne qualité, mais qui glorifie quand même Michael Jordan, ouais. parfois au détriment de d'autres joueurs de sa génération. Attention, ne pensez pas que les faits soient complètement biaisés, puisque ça n'est pas le cas. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, je suis désolé, mais c'est une coproduction de Netflix avec ESPN, donc ça n'est pas exclusivement fait par Netflix. Et le réalisateur, qui est Jason Ayer, est un réalisateur qui vient de chez ESPN, qui avait déjà fait d'autres documentaires sportifs, et sinon des réalisations d'événements sportifs, tu vois, des réalisations.
Qui, pour ceux qui ne savent pas, est une grosse chaîne de sport.
Une grosse chaîne de sport américaine, voilà.
Qu'on peut avoir même en France, d'ailleurs.
Oui, qui s'exporte un peu partout. Donc voilà, disons plutôt que, en fait, certaines anecdotes sont bien enrobées. Après, j'ai envie de vous dire, dans ce genre de format, on a un peu l'habitude avec les œuvres américaines. Voilà. Et pour revenir à une dernière anecdote qui est à la fois détestable et fascinante, et qui, encore une fois, accentue le fait que Michael Jordan est un extraterrestre. Quand il prend une première fois sa retraite de chez les Bulls, alors je crois que c'est en 95 ou en 96, il quitte le monde du basket pour devenir un joueur professionnel de baseball. Il intègre directement la seconde division. Le directeur sportif lui dit « Non mais attendez, le mec, il est fort en fait. » Il allait intégrer les White Sox, donc c'est-à-dire la MLB, donc, c'est-à-dire la première ligue de baseball américaine. Il ne l'a pas fait. Pas par souci sportif, mais par souci extra-sportif. À cette époque, il y a eu une grève, justement, de la MLB. Et du coup, il n'y avait que les remplaçants qui jouaient. Et c'est le moment où lui a décroché, parce que lui, il voulait être dans l'équipe 1. Et à ce moment-là, bah, il est retourné du côté des vestiaires de chez les Bulls. Et hop, c'est reparti pour, oui, c'est pour un autre triplé. Donc le mec, tout ce qu'il touche, c'est... Le mec réussit tout ce qu'il touche. Enfin, c'est juste... C'est énervant. Enfin,
c'est très peu dit, je crois,
ils en font pas tout un truc.
Au détriment, quand même, aussi de sa vie de famille, de. Oui. Les gens qui l'entourent en prennent plein la gueule tout le temps.
Il le dit dans la série, ça. Ouais. Il le dit lui-même.
Je l'ai pas vu entièrement, j'ai vu quelques.
Ils le disent dans la série, il le dit lui-même. Il a. Un seul truc que tu peux pas lui reprocher, c'est qu'il soit malhonnête dans le sens où il est très conscient de ses propres défauts. Et après, il va avoir tendance à se justifier dans ses défauts, plutôt de dire les gars, si on a gagné 6 fois la NBA, c'est pas en sucrant des fraises.
Ouais. Voilà. Parce que tu disais quand même que c'était un peu genre de son côté, mais on montre aussi un peu ses mauvais côtés quand même.
Il y a le côté humain, on le voit. Il a un côté ultra touchant. Je vous en dis pas plus parce qu'il faut regarder la série, mais il y a un côté familial, il y a un accident familial qui est assez incroyable en termes de probabilité, qui est très glauque, très rare, qui lui arrive directement. Ouais. Et ça le rend très humain. Et voilà,
ouais. C'est beaucoup d'épisodes à regarder
10 seulement.
Et c'est quoi, 30 minutes ?
De 1 heure maximum. Okay. Et ça passe comme dans du beurre.
Ouais.
C'est vraiment une pépite.
Pour pas dire comme papa dans maman.
Ah là là, c'est toujours, mais de plus en plus classe.
parce qu'il s'est retenu sur comme dans du beurre.
Mais oui, il a bien compris.
Non, mais là, on a beaucoup parlé du fond. Pour revenir un tout petit peu sur la forme, parce que c'est ce qui aussi nous intéresse ce soir pour l'ancrer dans la pop culture. C'est rare, toi, de t'entendre parler de quelque chose que t'aimes bien qui soit produit par Netflix.
Et oui, c'est pour ça que j'insiste.
Mais, et j'ai eu l'occasion de te le soumettre plusieurs fois, ils ont plusieurs trucs comme ça sur le sport et je crois que ça, ils savent vraiment faire. Parce que tu vois, moi j'ai regardé.
La F1
Alors, il y a la F1 qui est honnêtement le moins bien de ceux que j'ai vu parce qu'ils sont obligés d'inventer des rivalités pour rendre le truc
Je l'avais regardé en diagonale et je trouvais que c'est en deçà.
Mais si tu prends Sunderland Till I Die par exemple,
il est très bien.
Qu'on aime ou pas le championnat anglais, même le foot tout simplement, on vit aussi la vie d'une commune en fait autour de. Et ça, voilà, je veux pas m'éterniser là-dessus parce que c'est pas l'objet, mais je trouve que c'est ce qui fait un objet très intéressant, qu'ils ont un regard, ils sont à l'intérieur des choses, ils suivent un club pendant un an où ils récupèrent des images d'archives. Tu parlais de 500 heures, c'est ça?
En tant que spectateur, t'es un insider en fait. C'est génial, c'est vraiment.
Ils savent faire ça. Ouais. Ils savent faire. Ouais. Et ils ont le storytelling qui va bien autour.
Ouais, exactement, l'enrobage.
Voilà, ça cartonne bien.
Vraiment, je vous le recommande, vraiment, vraiment.
Et du coup, Pépé, le golf, c'est Space Jam. C'est pour ça que t'as confondu.
Ah, c'est pour ça.
C'est à ce moment-là qu'il se fait envoyer dans l'autre monde.
Exact. Exact. Il joue extrêmement mal, d'ailleurs, comme on l'entend très régulièrement.
Dans Scary Movie.
Dans l'intro d'un
super podcast qui s'appelle Raconte-moi ta pépite.
Ouais. Mais oui. Par un gars qu'on connaît bien.
Ouais. C'est moi.
Trêve de bavardage.
Plus de d'ailleurs, en parlant de moi. Vous êtes ready, les gars?
Ouais.
Allez.
Et je vais vous parler de Eye Shield 21. Je sais très bien que ça parle à très peu de personnes.
Oui.
À part pour, déjà, vous êtes amoureux du sport et en plus des animés japonais.
Okay.
Donc Eye Shield 21, c'est un shonen neketsu. Bim. Donc shonen, ça veut dire en fait c'est souvent des mangas plutôt pour adolescents. Et neketsu, c'est un récit initiatique de un ou plusieurs personnages. D'accord. Très connus classiquement, mais ils ont un nom précis pour ça les japonais. Et donc, c'est dans le monde du football américain. Donc, pour information, c'est 35 tomes pour la version manga, 145 épisodes pour l'animé et 2 OAV.
La vache. Quand même.
Ouais, ouais, c'est quand même pas mal. Donc, moi, je me suis concentré sur l'animé. Que je vous avoue que j'ai pas revu en entier, mais que j'avais déjà vu une fois. Et en fait, bah, pour vous mettre dans l'ambiance, je vais vous faire un petit résumé du premier épisode. Je vais vous niquer un épisode sur 145.
Allez, vas-y. Tant que c'est pas le dernier, ça.
Ah bah si, par contre. Non, vraiment du premier épisode. Donc l'animé s'ouvre sur un match de football américain. L'équipe en rouge perd de 3 points, il reste 9 secondes et il faut remonter tout le terrain. Allez. Le dernier moyen de gagner, les jambes du joueur 21. Il récupère la balle et réussit à marquer les points nécessaires pour gagner. Boum, générique de l'animé. Okay. On retrouve Senna Kobayakawa. Qu'on appellera Senna, on va pas se faire chier. Il fait sa rentrée au lycée. Ancien larbin, excusez-moi, dans son collège, il peut enfin retrouver une nouvelle vie. Malheureusement, 3 petites frappes le prennent en grippe. Afin d'esquiver leurs coups, il court à travers.
Ouais, j'avais deux fois coups, ouais.
Afin d'esquiver leurs coups, il court à travers eux et les évite. C'est alors que Yoshi Imura, le capitaine de l'équipe de football américain, le voit courir et esquiver ses méchants. Après plusieurs péripéties et un forcing d'Iruma, Senna se retrouve dans l'équipe. Mais afin de ne pas montrer ses talents aux futurs adversaires, on lui donne un casque avec une visière et on le renomme Eyeshield 21. Okay. Fin du premier épisode. Okay. Voilà, ça vous met en jambes. Okay. Ouais. Donc, un petit nouveau qui va apprendre le football américain et avec lui, on va apprendre le football américain petit à petit en fait.
Ah, on lui met une visière, c'est-à-dire il voit plus ou...
bah, c'est une visière assez opaque pour que les gens ne puissent pas reconnaître son visage. D'accord. Et vu qu'il y a tout l'attirail du football américain, après tu peux pas vraiment reconnaître un peu l'allure. Voilà, mais bon.
C'est ça. Et moi j'ai déjà une première question.
Vas-y.
Quand tu dis remonter le terrain, est-ce qu'on parle d'un terrain à la Olive et Tom là, qui se déroule sur des kilomètres et des kilomètres
avec un mec qui déroule la bande
côté ça. Non, il y a pas trop ces effets là, il y a plus les effets de pendant qu'ils sont en train de faire une action. J'aurais que j'en parlais, mais pendant qu'ils sont en train de faire une action, t'as moitié plutôt une pause et de voir ce qu'ils pensent dedans.
D'accord.
C'est okay. Ça met des kilomètres et des kilomètres pour avancer. Puis en plus là c'est vraiment l'ouverture, donc là c'est vraiment genre okay. Et même c'est même plutôt l'inverse, c'est pour montrer qu'il est très rapide et qu'il passe au milieu de tout le monde, ça y va en 2 secondes.
Okay.
Donc juste quand même pour des gens qui ne connaîtraient pas le football américain, rapide, 2 équipes de 11 joueurs s'affrontent, l'attaque doit avancer jusqu'au bout du terrain, la défense doit les bloquer. Dans une réelle équipe, il y a une équipe d'attaque et une équipe de défense, c'est vraiment des joueurs différents, mais pour éviter la multiplication des personnages, on aura seulement 11 personnages qui joueront l'attaque et la défense dans l'ennemi.
Ah d'accord.
Parce que sinon ça commence à faire beaucoup de persos à suivre quand même.
C'est vrai.
Et donc, pour marquer des points, il faut amener le ballon au bout du terrain ou tirer au pied entre les poteaux. Okay. Voilà.
La base.
Donc, ce qui est intéressant, du coup, aussi, derrière, c'est l'apprentissage du football américain. Parce que le personnage principal, il ne connaît rien au football américain. Donc, on va apprendre avec lui, en fait, plutôt. Donc, il y a toujours aussi, au milieu de l'épisode, un petit quiz rapide d'une question sur le football américain. Donc, qu'est-ce que c'est ça ?
Il y a un petit aspect pédagogique.
Ouais, complètement. C'est,
c'est un manuel.
Comment on peut marquer des points ? Qu'est-ce qu'on doit faire là ? Qu'est-ce que c'est une ligne de défense ? Cool. Qu'est-ce que c'est un attaquant ? Qu'est-ce que c'est
ils
un machin ?
C'est aussi dans l'animé, ça ?
Ouais, c'est dans l'animé. Et dans le manga, je sais pas pour le coup. J'ai vraiment jamais lu le manga, mais je pense qu'il devait avoir à peu près la même idée. Parce que t'as quand même. Vu que le sport américain, c'est un peu plus compliqué en termes de règles.
Bah oui.
Et il y a beaucoup.
Ah ça oui, c'est
pluralité sûr, dans les postes, dans
c'est
tout
pas,
ce qu'on veut, dans les stratégies.
C'est
voilà.
Pas le truc le plus simple à adapter en manga.
Et du coup, ce qui est bien, c'est que t'as ça. Et en plus, Senna, donc, comme je disais, que c'est un gros noob du football américain. Toutes les règles sont expliquées petit à petit dans les épisodes. C'est genre, on commence très doucement. Ah, il fait ça. Et d'à côté, t'as les spectateurs, quelqu'un qui pose des questions et quelqu'un qui connaît qui va répondre ça. Pour au moins t'apprendre. Et petit à petit en plus. Au bout de en gros 60 épisodes, t'as à peu près toutes les règles. Vraiment, mais bien, tu les connais vraiment dans le détail.
T'es prêt à regarder le Super Bowl. Quoi.
Ah ouais, bah là, t'es nickel. Quoi. Et du coup, comme je disais, le problème du football américain, c'est une pluralité des postes. Donc, c'est pour ça je vais vous parler juste vite fait donc des Devil Bats. C'est le nom de leur équipe de football américain.
Ok.
Donc, Senna, lui, c'est le petit chétif timide et sans personnalité. Il ne sait pas dire non. C'est vraiment le larbin. Mais quand il est Eyeshield 21, il a une classe, une assurance.
Okay.
Et alors, vraiment, d'un seul coup, il en impose.
Le shonen, quoi.
Ouais. Bah oui, c'est classique. Et du coup, il est running back. C'est un poste où il faut savoir courir vite avec la balle en main, éviter les adversaires qui viendront vous plaquer. Et du coup, vu qu'il était larbin,
oui, bah
il
est
habitué à courir vite, à passer les méchants, machin. Il y en a un deuxième running back qui est utilisé aussi, qui s'appelle Ishimaru, mais qui est très discret au point que ça peut être utilisé comme un atout. C'est-à-dire presque à l'oublier.
C'est là.
Iruma, donc c'est le capitaine de l'équipe. Il est démoniaque et manipulateur. C'est pourquoi il est le quarterback de l'équipe. Parce qu'un quarterback, c'est celui qui distribue les balles et qui met en place toutes les stratégies. Donc avoir l'intelligence et le côté fourbe, c'est très important. Ça se joue avec. Il y a Kurita, donc le gros colosse, tout rond, tout souriant et tout gentil. C'est le linebacker central. Donc un linebacker, c'est celui qui va tenir la ligne devant le quarterback, qui va lui envoyer la balle. Donc cette place de linebacker, il sera rejoint aussi par Komutsubi, qu'il considère comme son maître.
C'est des gars qui font 250 kilos, c'est
ouais,
ça.
Ouais, bah, un peu moins maintenant. Vrai football américain, ils font 120 kilos, mais c'est que du muscle. Quoi. Oui, mais c'est de la belle bête.
Que du muscle.
Y aura Taro, donc un fan de baseball. Il est très fort pour attraper les balles, mais pas pour les transmettre. Du coup, c'est un très bon receveur. Ouais, très bien. Donc il sait courir derrière la ligne pour recevoir des longues passes du quarterback. Du coup, le côté baseball, savoir rattraper. Par contre, vu qu'il est très mauvais pour la relancer, c'est pas grave. De toute façon, au baseball, il faut foncer après une fois que tu l'as récupéré.
Exact.
Et il y aura un deuxième attrapeur qui va le rejoindre. Et deux autres qui sont vraiment des personnages très très secondaires. On sait juste qu'ils sont là, mais on s'en fout. Il y a les frères AA. Alors qu'ils ne sont pas, ils s'appellent pas vraiment comme ça, mais c'est les trois petites frappes qu'on parlait du début qui se font, qui se retrouvent
dans la même équipe.
Ah ouais. Et en fait, ils les appellent AA parce qu'il y a plein de running, il y a le running gag de dès qu'on appelle les frères AA, il y a un petit truc de AA. Tu vois les trois têtes qui arrivent. D'accord. Et du coup, le capitaine les appelle les frères AA. Donc les trois frappes, des gros costauds qui savent taper sur la gueule, qui sont, ils ont pas peur. Du coup, ils rejoignent la ligne de linebacker pour en foutre sur la gueule des gens et pour éviter que ça passe, quoi. Les adversaires passent.
Des rôles bien stéréotypés, quoi.
Ouais, complètement. Ouais. Il y a Musashi, donc c'est un personnage rempli de droitesse, de justice et de bons sentiments. C'est le kicker de l'équipe, celui qui va taper au pied la balle. Ouais. Très important. Donc lui, il faut qu'il soit très serein. Parce qu'il faut que tu tires au pied, mais sauf que faut que ça dure 10 secondes, t'as des gens qui vont arriver sur ta gueule, un peu comme le quarterback. Ouais. Donc faut être très serein et en même temps très droit. Enfin voilà, c'est pour ça.
Tous ces mecs-là, on leur développe tous un arc narratif ?
Ouais, ce qui est important, c'est que ouais, en plus, derrière, c'est que des fois, tu vas avoir un épisode où ça va être un épisode contre une équipe où il vaut mieux t'avoir des receveurs. Donc là, ce coup, ça va être Taro qui va être important et lui, il va apprendre un autre truc et tout. Donc, même si Senna, c'est bien sûr, c'est le personnage principal parce que c'est Achille 21. Tous ont leur petit moment. On apprend sur eux et comment ils s'améliorent.
On t'apprend chaque poste.
Et puis c'est vraiment fait petit à petit assez bien pour que tu comprennes petit à petit et pas non plus pour que ça dure 1000 ans. Ouais. c'est assez bien dosé. Et le dernier, donc, c'est le mec qui vient d'Amérique du Sud.
Normal, c'est pas ce qu'il fout là.
Mais donc aucun club de football américain.
Ouais.
Et lui, en fait, il vient au Japon, il rejoint les Devil Bats en tant que tight ends. Donc c'est un gars qui fait un peu de tout. Qui peut être receveur, qui peut être running back, comme il peut être bloqueur. C'est vraiment celui qui permet.
Suisse, le gars. C'est un mec de l'équipe spéciale en vrai, quoi.
C'est ça.
C'est Makelele.
Et du coup, donc ouais, chacun des personnages a son récit esthétique, comme je le disais. C'est ça qui est vraiment important. Ça, c'est ça qui est aussi bien, parce que tout le temps, 145 épisodes sur un seul personnage, ça casse les couilles quand même.
Ouais, c'est clair.
Bien sûr, Senna a son antagoniste, c'est-à-dire le gros linebacker.
Bah oui.
Qui défonce tout le monde, qui est Shin, qui vient du meilleur lycée japonais, machin. Bien sûr, il le faut.
Le rival, quoi.
Le rival. C'est important de savoir aussi qu'on voit des victoires comme des défaites. Il y a plusieurs tournois dans les 145 épisodes. Après, le but, c'est, comme ils disent, la Christmas Bowl au Japon. C'est, t'as un tournoi de printemps, t'as un tournoi d'automne. Donc là, les deux gagnants se rencontrent pour faire une petite finale. Et le gagnant de celui-ci vont rencontrer les gens du Japon de l'Ouest. En finale, donc la Christmas Bowl, c'est le Super Bowl américain au Japon pour les lycées, quoi. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ouais, il y a des effets un peu à Olivier Tom, mais pas autant, parce que bien sûr, ouais, c'est un peu de.
C'est pas du surnaturel.
Alors, en fait,
ouais, c'est pas surnaturel, Olivier Tom. Ouais. Je vois pas ce qu'on exagère avec Olivier Tom.
Ça reste spectaculaire, mais.
En fait, pour te montrer, genre comment il réfléchit, par exemple pour Senna, qui doit passer entre les joueurs. Tu vas voir qu'à un moment il va stopper et qu'il va se faire une ligne tête verte.
Ouais, ouais.
Ah oui,
c'est
pour la lecture du jeu.
C'est plus pour te montrer ce qu'il pense, quoi. Mais c'est pas vraiment. Il n'y a rien de naturel, quoi. Du coup, pourquoi cet animé ? Déjà, ceux qui aiment le football américain, franchement, c'est super cool.
Ils sont gâtés.
Ils sont clairement gâtés. Il y a un peu de tout. Tu vois, bon. Et ceux qui ne connaissent pas, du coup, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, c'est qu'on apprend petit à petit, donc on arrive à s'y intéresser. On s'attaque aux personnages, donc vraiment les membres de l'équipe, que ce soit amis ou ennemis. On parle pas que de Senna, on parle vraiment de tout le monde, donc ça c'est vraiment cool. Et les matchs sont complètement hétéroclites et très intenses. En général, un match, il dure maximum 3 ou 4 épisodes. Pas plus. À part, bon, j'avoue, pour la grosse finale, un peu plus, mais...
Donc ça donne envie aux gens de s'y intéresser.
Ouais. Il y a des moments où si on n'est pas dans les matchs, ça va être des moments d'entraînement, voilà, il y a plein de trucs comme ça.
il doit bien y avoir des histoires de cœur ou des...
Oui, c'est ce que j'allais dire aussi.
Il y a toujours une histoire de cœur là-dedans.
Il y a une lycéenne.
En fait, ouais. Il y a du coup aussi la meuf qui est protégée, justement, Senna, qui était qu'à 1 ou 2 ans de plus que lui, qui était déjà au lycée, du coup, et bah, qui rencontre, enfin, qui revoit, du coup, en arrivant au lycée. Mm. Et du coup, il essaie justement de s'émanciper du côté, elle la protège, elle est tout machin.
Ouais.
Mais dans le fond, c'est plus une forte amitié que vraiment de l'amour. Au pire, il y a les autres mecs qui disent « Ah, elle est trop jolie !» Ouais. Mais lui, c'est vraiment une grande copine, et c'est tout, quoi.
Ok. Voilà. Jusqu'à la fin.
Ouais, jusqu'à la fin.
Ok.
Mais par contre, ça met très longtemps à reconnaître. Du coup, il y a toujours aussi un petit running, parce que Senna, il est marqué comme le secrétaire de l'équipe, sauf qu'il est aussi Aishil 21, mais sauf que c'est un secret. Du coup, il était plein de moments, il fait « Ah, j'ai oublié des piles », donc il se barre, et après, il se barre pendant tout le match, quoi.
Ah, oui, ouais,
c'est du coup, Superman, quoi. C'est un peu un super-héros, en fait.
Ouais, non, parce
que... T'as les codes des films de super-héros,
non, mais
un peu,
se barre, il revient 5 minutes après, ouais. Il met 5 minutes à sortir.
Il y a quand même un côté Superman, quoi.
Ouais, mais après, du coup, t'as toujours Iruma, donc, comme je disais, un peu démoniaque et stratège, il va mettre un truc en haut, qui bouge, parce qu'il y a le chien qui bouffe un truc en dessous, du coup, tu vois, qui donne l'impression que Senna, il est en train de filmer du haut, machin, enfin, toujours du petit stratagème pour dire « Ah non, il est là-bas, t'inquiète, c'est normal. » Bien sûr qu'un jour, elle le saura, on va pas justement le lever. Mais...
c'est terminé, d'ailleurs
c'est complètement terminé. Donc, okay. Au bout des 5h45, vous avez votre fin. Et, logique ou pas logique, comme vous voulez, mais regardez jusqu'au bout. Quoi, parce que...
Bah déjà, tu vois, rien que le fait que ce soit une manière ludique d'apprendre les règles, je pense que j'essaierai... Après, c'est peut-être un peu long tous les épisodes, mais à lire, c'est peut-être plus rapide.
Après aussi, on voit ça que je l'ai pas dit, mais tu vois la construction de l'équipe, parce qu'au début, il n'y a que Iruma et, merde, j'ai oublié le gros qui est le linebacker. Ils sont que tous les deux, et à chaque fois, ils se démerdaient pour choper d'autres gens pour faire leur équipe de l'année. Là, ils récupèrent Senna, et tu vois la construction aussi de l'équipe petit à petit. Donc les frères AA qui arrivent, l'entrée de Taro et tout, et du coup... Au début, ils se débrouillent parce que c'est des petites équipes. Juste un running back, un mec qui court, ça suffit. Et après, ils vont tomber sur une équipe où les running backs, ça passe pas comme ça. Donc, ils font un receveur. Bon, bah, comme de par hasard, ils rencontrent un mec. Ouais. C'est toujours comme ça, ces trucs-là.
Pendant notre tournée, nous avons la chance de rencontrer Rodrigo.
Mais tu vois aussi la construction de l'équipe, donc super intéressant. C'est-à-dire, mais de eux qui connaissent pas le football américain, par exemple, les frères A, ils connaissent pas plus. Hein. On leur dit juste, tu vas. Alors, Iruma les utilise avec des photos compromettantes pour qu'ils viennent jouer.
D'accord, ok.
Mais oui, normalement, ils rentrent vraiment dans l'équipe. Okay. Et on leur dit, non, mais au pire, ils ont leur fierté de Vaurien, quoi. Ils se sont défoncés, ils font, bah alors, bah, je croyais que vous étiez des Vauriens et que vous étiez des costauds, et là, vous faites défoncer, tu vois. Enfin, ça va jouer sur plein de trucs après. Ça dépend
sur l'orgueil.
Ça dépend sur quel personnage, mais ils ont tous leurs petits moments, donc. Est-ce que ça vous donne envie alors?
Ouais,
c'est juste la longueur qui me fait peur.
Moi, c'est ça. Moi, j'aime déjà le football américain, mais j'ai pas besoin de ça, mais ça donne envie, ouais, quand même. Ouais.
Moi, je pense que ça me rebute un peu la longueur. Si tu veux, je suis au pied de 145 épisodes d'un.
De 20 minutes, peut-être, non?
Ouais, après, c'est déjà 20 minutes. Comme c'est déjà pas ma cam en règle générale, les animés, bon.
Moi, je pense qu'à lire, ça peut se faire
plus facilement. Oui,
après, ouais. 37 tomes aussi à lire, quand même. C'est quand même un bel animé.
Oh, c'est tranquillement. Ouais. C'est quand le Super Bowl là, que je suis après là?
Février,
bon.
Il y aura c'est quoi la mi-temps du Super Bowl, Dr. Dre?
J'ai pas vu.
Bah, c'est marrant, mais
il y a Snoop Dogg, Dr. Dre. Je crois que c'est un truc de bâtard.
Ah, ouais, donc c'est très du classique Beethoven, Mozart.
Michel Fugain, je crois.
Kendrick Lamar et Michel Fugain.
D'ailleurs, toujours Kyo.
Kendrick Lamar est en duo avec Michel Fugain.
En guest.
Et après c'est Trio qui finit le Super Bowl.
Oh l'horreur. Oh mon dieu. Et ben, c'est pas du tout à moi de faire ça, mais c'est pas grave. Tu me quand même me donnes une transition toute trouvée.
Ah oui, vas-y.
Je trouvais que justement la mi-temps du Super Bowl, c'était peut-être le meilleur exemple de mélange de pop culture et de sport en fait.
Mm. C'est vrai.
Même si, bon, à côté de ça, c'est aussi, pour moi, c'est trop sirupeux. Et c'est
du show à l'américaine.
C'est l'excès du show.
Ouais.
Mais...
Ouais, non, c'est trop de show, en fait.
Mais
ça vend tout ça, le Super Bowl, c'est un grand spectacle avec du sport au milieu.
Il y a le côté... en fait, c'est Disney, c'est-à-dire il y a le côté excessif, gnangnan, dégoûtant de Disney. Il y a le côté, en même temps, qui t'émerveille, qui est fascinant. Qu'on voit du pâté, quoi. Voilà. Ouais.
Du coup,
très bien.
Voilà,
merci,
pour Aishil 21.
Merci beaucoup, Charlie.
Merci bien.
Et maintenant, on va passer à la quatrième et dernière œuvre.
Qu'est-ce que ça va être?
Ça va reparler football. On va parler de PES. Non, je te laisse la main.
Ça va parler de sport.
Vas-y, déjà.
Donc en effet, le sport, c'est sympa à regarder parce que c'est du réel, c'est plein de surprises.
À la limite, on peut avoir des documentaires comme The Last Dance ou Les Yeux dans les Bleus, ça permet de revivre ma référence.
C'est super bien, Les Yeux dans les Bleus.
On peut revivre des émotions qu'on a déjà vécues grâce au vrai sport. Ou alors, il y a des œuvres de fiction étalées sur 37 livres ou 150 épisodes, etc. Mais alors, comment on fait pour faire une fiction sportive intéressante sur une heure et demie? Eh bien, en y ajoutant du kung-fu.
Oui.
Tu je laisse un peu moins fort.
Ah, moi, ouais. J'avais prévu de baisser tout ce score. Voilà. Donc voilà, en y ajoutant du kung-fu tout simplement, et ça donne du football plus du kung-fu, ça donne Shaolin Soccer, film hongkongais, genre comédie, bon, action, kung-fu, sorti en 2001 donc. Réalisé par Stephen Chow, scénarisé par Stephen Chow. Au casting, on a Stephen Chow. Bon, il n'est pas tout seul à faire tout ça, mais donc c'est l'acteur principal.
On dirait moi qui crée un podcast. Ben, réalisé.
Réalisé par Charlie. Donc du coup, ce film aura un excellent accueil critique dans le monde et sera récompensé à l'appel avec meilleur film, meilleur réal, meilleurs acteurs, meilleurs effets spéciaux, meilleure chorégraphie. Dans différents.
Ah ouais, quand même.
Ah ouais, quand même.
Je pensais pas que ça va autant cartonner.
Ouais, ah, ça, c'est un carton moi, international.
C'était culte, mais parce que c'était fun et tout machin.
Enfin, moi, ouais,
mais
pas dans ça, le sens. C'est un carton
et
populaire.
C'est pas... Et c'est pas le seul truc culte de Stephen Chow. Il a touché.
C'est
là,
pas
ça,
le seul.
Mec.
Ouais.
Bah,
mais alors, qu'est-ce que c'est je vais vous parler un petit peu de l'histoire. Donc, Fung, un jeune garçon, se prend pour le plus grand joueur de foot de tous les temps. Il se fait même tatouer « I'm the only golden leg », pied droit d'or. Bon, du coup, c'est écrit en cantonais, donc bon, choisissez la traduction qui vous plaît. Il se fait tatouer ça sur le ventre et il s'amuse à humilier un de ses coéquipiers dans les vestiaires. Mais voilà, un jour, Fung rate lamentablement un péno et se fait défoncer la gueule par les supporters à coups de bâton, de batte de baseball.
Parce que c'est bon.
Je vous laisse imaginer si on avait fait subir ça à Mbappé à l'Euro de foot 2021.
Oh la vache.
Donc bref, pas Mbappé, Fung finit handicapé. Donc il boite comme un bossu. Donc après, on fait un bond dans le temps de 20 ans. Il est désormais vieux et fatigué. Il travaille sous les ordres de l'homme qu'il martyrisait dans les vestiaires, qui s'appelle Hong. Ce dernier, après l'avoir humilié et lui avoir avoué que c'est lui qui avait payé des hooligans pour lui péter la gueule, le vire. Donc Fung se retrouve à la rue, il est désespéré, il devient alcoolique. Il rencontre un jeune homme dans la rue, Singh, qui est en train de faire le grand écart sur des sacs poubelles. Pourquoi pas ?
Normal.
Celui-ci l'invite à apprendre le kung-fu. Parce que le kung-fu, c'est génial. Pour ne plus glisser sur les pots de banane dans la rue, pour faire des créneaux en voiture, pour tailler des haies. Mais surtout, lui dit-il, pour jouer au foot. Ouais. Donc voilà, on a un début de film assez étrange, et c'est que le début, ça devient de plus en plus what the fuck, avec un enchaînement de scènes complètement surréalistes qui vont permettre de poser un petit peu l'ambiance. Donc on a déjà une boulangère qui prépare sa pâte à brioche dans la rue en faisant une chorégraphie, c'est un petit peu de la tectonique kung-fu, quoi. C'est bien stylé.
C'était bon, ça.
C'est suivi d'une scène de comédie musicale totalement inattendue, avec des inconnus dans la rue. Il y a un mec tout chelou qui intervient en disant que lui, il a toujours voulu chanter et danser, et tout le monde se met à danser la chorégraphie de Thriller de Michael Jackson avec lui.
Qu'est-ce que c'est bon.
Ah ouais, c'est magique. On a quelques temps après, une scène de chant en duo qui est complètement lunaire. On dirait une vidéo de fin de soirée dans un bar. En plus, on voit clairement que les acteurs sont en train de se fendre la poire. Même les rires des acteurs ont été doublés en VF. On a ensuite une bagarre de rue, là, qui va finir de planter le décor. Le héros n'ayant pas le droit de se battre, car son maître lui a interdit. Tout ce qu'on saura sur son maître, il a un maître qui lui a dit « ne te bats pas ». Donc du coup, il va tataner tout le monde avec un ballon de foot. Ça va être une scène déjà bien spectaculaire, remplie d'effets spéciaux, qui n'est que le début. Donc voilà, le décor est planté, l'intrigue peut commencer. On va passer à la présentation des personnages et des enjeux dans une autre partie du film. Donc tout d'abord, le recrutement des membres de l'équipe. Donc il va aller voir chacun de ses frères. Ils sont 6 frères, tous aussi barjots les uns que les autres. Donc il va aller voir Tête de Fer. Rien qu'avec leur surnom, vous allez savoir petit peu leur spécialité dans le football. Donc Tête de Fer, c'est le vieux dégarni qui a toujours une clope au bec. Plume légère, le petit frère, donc qui est le petit gros en fait. Main diabolique, donc forcément ce sera le gardien de but. Tunique d'or qui joue avec ses abdos, avec son ventre. Et alors la traduction, ça dépend, jambe crochet ou jambe tornade, qui maîtrise le breakdance, très utile pour jouer au football.
Exactement.
Donc une fois que toute cette petite équipe est recrutée, il va y avoir des entraînements. Donc forcément, au début du film, ils sont tous nuls à chier. Donc tout simplement, on dirait des Rennais, quoi.
Attends,
Donc du coup premier match amical, donc là on va avoir le droit à une scène de guerre sur le terrain, mais vraiment une scène de guerre, et ça finit avec des fusils, des éclats d'obus sur le terrain, ça devient complètement n'importe quoi. Et ça va être l'évidence alors pour les joueurs qui sont en train de se faire martyriser par l'équipe d'en face, il faut utiliser le jeu à la nantaise, c'est pas ça, ils auraient pu penser au jeu à la nantaise, mais non, ils se disent plutôt on va utiliser les arts martiaux.
Et oui,
pour réussir à... par contre, oubliez déjà les règles du football, hein, parce que scène de guerre, vraiment, les gens se tapent sur le terrain, en fait. Ils sont en train de se donner des gros coups de tatane.
Ils n'ont pas éclaté l'arbitre aussi, en fait
L'arbitre, non, se fait pas éclater. Il est toujours plus ou moins respecté, à part à un moment où il veut sortir un carton, et en fait, on va lui prendre des mains. C'est une petite scène comme ça. Donc bref, après ce match amical, les choses sérieuses commencent enfin à la deuxième moitié du film, le tournoi. Donc là, bon, on peut un peu dire que j'ai spoilé la moitié du film, mais bon.
Ouais, mais c'est la présentation des personnages, c'est normal.
Après, je vous ai clairement pas dit tous les gars qu'il allait y avoir pendant le film. Donc c'est beaucoup d'humour. Donc vous l'aurez compris, on est dans de l'humour tantôt burlesque, tantôt absurde. Donc avec des dialogues... Pas forcément de haute voltige, moi, mais qui parfois font assez mouche. Alors par contre, ça ne plaira pas à tout le monde parce qu'il y a quand même, on peut le dire, c'est quand même assez grossophobe sur certains aspects. Donc notamment le personnage avec de l'embonpoint qui ne peut s'empêcher de se goinfrer et quand il court, la terre tremble. Donc
est-ce
très
que tu
cliché.
Peux peut-être rappeler à ce moment-là à quelle date il est sorti le film pour ancrer
2001.
Voilà,
pour 2001, ancrer, ouais. Donc, voilà, c'est... Ça commence à ça voilà, 20
ça,
ans. Quoi,
c'est là que tu vois
ans,
que ça date, l'humour. Ouais.
Ça compte un peu. Ouais.
Et c'est aussi un peu sexiste. Parce que déjà, il n'y a qu'un seul personnage féminin. Enfin, qu'un seul. Il y en a quelques-uns d'autres, mais très secondaires. Mais là, tu n'en as qu'un seul. Qui est totalement moche. Donc, forcément, le héros l'emmène dans une boutique de fringues pour qu'elle se sente belle. Forcément. Alors, j'ai quand même ri parce que le héros, après lui avoir dit qu'elle était belle, il lui met des grosses claques dans la gueule pour faire fuir les mouches qui sont attirées par les boutons.
Ah oui, punaise.
Mais bref, moi, ce qui m'a surtout fait rire, c'est les effets visuels qui sont bien amenés, surprenants et drôles. Parce que sinon, le jeu d'acteur, à mon humble avis, c'est assez, c'est assez catastrophique. Alors, en effet, la plupart des personnages principaux constituant les membres de l'équipe ne sont pas acteurs, déjà. Mais cependant, ils s'investissent vraiment à fond dans leur rôle. On ne peut pas leur retirer ça. Ça se voit qu'ils donnent tout ce qu'ils ont.
Ils venaient vraiment des arts martiaux, du coup, à l'origine, c'est ça enfin...
Ah, il venait de...
Non, il devait quand même...
Ah, j'avoue, je sais pas d'où il venait, mais pas spécialement des arts martiaux, ouais. Hein, parce que t'as plusieurs personnages qui ne font même pas de...
Oui,
de
cascade, je pense que c'est des acteurs hongkongais que tu retrouves dans d'autres trucs. Ouais.
Et je pense que... Moi, c'est peut-être... C'est mon avis aussi, mais je pense que c'est un peu dû à la VO, parce que j'ai pas forcément l'habitude de voir des films en cantonais, et du coup, ça m'a un peu choqué. Ah,
il faut dire que les comédies hongkongaises sont... forcément surjoué. Enfin, il y a un décalage culturel aussi par rapport à...
Mais quelque part, le surjeu aide à rendre le truc encore plus comique. Et bon, après, voilà, la VO, moi, j'ai eu du mal. J'ai regardé aussi en français, et par contre, à l'inverse, je trouve que le doublage français, il sublime le film. L'adaptation, elle est vraiment très réussie. Même les chansons sont doublées. La synchro labiale, elle est très réussie. Ce qui n'est pas une mince affaire quand il s'agit de langue asiatique.
De cantonais. Oui.
Et on a quand même un casting VF de haute voltige, donc avec les voix françaises de Kevin Spacey, de Matt Damon, de Laurence Fishburne, de Jack Black, et il y en a d'autres. Je ne sais pas toutes noter, mais voilà, c'est... Vous reconnaîtrez forcément les voix que vous avez déjà entendues ailleurs. Mais voilà, les effets spéciaux, je voulais revenir là-dessus, c'est vraiment ça qui m'a marqué. Ouais. Même si vous l'avez revu dernièrement.
Non,
pas récemment.
Mais ce que vous avez retenu de Shaolin Soccer, c'est quand même les
moi,
effets.
Étant gamin, je l'ai vu au moins une dizaine de fois. Donc,
on est face à un grand fan.
Oui, bien sûr.
Ah, oui, okay,
il est énorme, ce film.
Donc déjà, avant de commencer par les effets visuels, les effets sonores, déjà, rien que les whoosh, les baum, rien qu'avec un coup de pied, avec un coup de pied, il arrive à décoiffer ses ennemis, quoi, sans les toucher. Et puis en plus de ça, les tirs sont explosifs, ça vous prend aux tripes, vraiment, si limite, ouais, je dirais que ça écoute avec un casque, quoi. C'est assez prenant. Et sinon, bah, les effets visuels sont franchement pas dégueux techniquement. Donc Matrix est passé par là 2 ans avant, hein, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, 90, j'ai pas vérifié.
99.
Ouais, ouais, donc 2-3 ans avant. Et bah, clairement, ils se sont inspirés de Matrix pour réaliser certains effets. Donc un petit exemple d'effet visuel du début, où il envoie une canette dans la stratosphère avec un coup de pied. Il arrive à soulever un frigo, à le mettre sur le haut d'une pile de frigo juste avec un coup de pied. Lors de l'entraînement, il tape dans une cible sur un mur en s'éloignant de plus en plus et en réalisant des figures de plus en plus improbables. C'est vraiment super bien fait.
C'est trop drôle.
Et puis c'est drôle, quoi. Et puis alors, je vous parle pas du match final. Enfin si, je vous en parle. C'est la dernière demi-heure, le match. C'est un festival. Donc le tir qui enflamme le ballon, le gardien qui arrête le ballon en gardant les mains dans la poche, le ballon qui arrache la pelouse sur sa trajectoire, les poteaux de but qui sont forcément très mal menés.
C'est un shonen en film.
Et forcément, rien qu'avec les capacités des joueurs, il suffit de s'imaginer ce qu'on pourrait faire avec ça, et ils l'ont fait. Par exemple, tête de fer avec sa tête d'acier, jambe de crochet, donc qui fait une espèce de tornade de breakdance en dribblant avec le ballon. Tunique d'or, du coup, qui contrôle le ballon avec ses abdos, mais qui le garde, qui l'aspire avec son ventre.
Ce n'est pas une faute.
Pour le rejeter. Non, il n'y a pas vraiment de faute. Hein. Ouais.
Il n'y a pas vraiment d'arbitre.
Je crois qu'il siffle une fois parce que, pour contestation.
Ouais, il n'y a pas...
un truc comme ça. Donc les inspirations sont assez multiples, hein, pour toutes ces idées après. Donc parmi les inspirations des œuvres existantes, on a beaucoup d'idées qui sont reprises d'Olivier Tom, forcément.
Ouais, ouais.
Sauf que là où Captain Tsubasa est très sérieux, relativement sérieux dans sa mise en scène,
dans son registre, ouais,
ouais. Parce que c'est pas comique. Là, il va piocher dans Olivier Tom, mais il rend ça complètement burlesque. On est clairement dans la parodie.
C'est pour ça que ça passe d'ailleurs, parce que sinon.
C'est ça qui rend le truc drôle.
Voilà. Donc je vous disais aussi Matrix. Et alors ouais, j'étais assez surpris dans la musique aussi. Alors par contre, on a une musique très épique pendant tout le film, mais on a aussi une inspiration. Vous allez deviner. Dès le début, là je vous mets le film d'où ils ont pris la musique. Vas-y.
Okay.
Le Roi Lion.
Le Roi Lion.
Ah mais oui.
Le Roi Lion. Et juste après, ça va enchaîner sur la musique de Shaolin Soccer.
Ok.
Donc là clairement vous avez bien noté les notes du Roi Lion.
Ouais clairement.
Là c'est Shaolin Soccer.
Oh la vache.
Oh la vache.
Ouais. C'est le lien, il est quand même.
Ah bah ouais.
Vraiment ça.
Ouais.
Ça saute aux oreilles.
Ils ont rajouté quoi? Ils ont rajouté un violon, c'est ça?
Un petit décalage.
Ouais, c'est vraiment.
Ouais, il y a une première note décalée, c'est tout, quoi.
Bon, à part ces quelques notes, vraiment, par contre, ça a été un peu choquant, vraiment. Tu dis plagiat.
C'est gros plagiat, merde.
T'as mouffé ça avec les autres.
Sinon, le reste de la musique, c'est qu'à un moment que t'as ces notes-là. Sinon, le reste de la musique, c'est épique, mais c'est pas tout le temps les notes du Roi Lion.
Ok.
Donc voilà des inspirations qui viennent du Roi Lion, c'est assez inattendu. Donc des inspirations aussi qui viennent du breakdance, je vous le disais.
Normal.
Mais surtout du kung-fu, bien évidemment, avec un hommage au film de baston et particulièrement à Bruce Lee. Car le gardien, déjà, c'est un sosie de Bruce Lee. Il porte déjà la mythique combinaison
jaune et noire.
Que le maître
Onitsuka Tiger.
Le maître Lee le portait déjà dans Le Jeu de la Mort. Donc c'est le dernier film du maître du kung-fu avant sa mort prématurée. Et du coup, le gardien de foot, quand il sort du terrain blessé après un acte héroïque, donc je vous laisse regarder le film, ses coéquipiers l'acclament en lui disant « Ton corps peut quitter le terrain, mais ton esprit restera à jamais ». Donc c'est clairement un clin d'œil à Bruce Lee. Donc d'ailleurs cet acteur qui est clairement un sosie, car il incarnera d'ailleurs quelques années plus tard le rôle de Bruce Lee dans La Légende de Bruce Lee, la série.
Okay.
Et dans, alors je sais pas si vous avez vu ces films Ip Man.
Si, c'est une trilogie sur Netflix.
Ah bah c'est une quadrilogie parce que dans le 3 et le 4 du coup il incarne Bruce Lee dans ces films.
Ip Man qui est en fait le maître de Bruce Lee dans la vraie vie. Enfin, en fait c'est adapté de la vraie vie. Voilà.
D'où le rôle de Bruce Lee, c'est cohérent.
Tout est cohérent.
Et du coup, je me suis dit, mais en fait, les acrobaties qu'on peut voir dans le film, il y en a certaines qu'on peut aussi voir dans un vrai sport indonésien, un vrai sport vieux de 1000 ans, qui s'appelle le sepak takraw. Okay. Donc, c'est un sport en fait qui mélange volleyball avec les pieds sur un terrain de badminton.
Oh, c'est ce que j'allais dire, c'est le tennis ballon acrobatique en fait qu'on peut
ouais,
connaître,
et du coup en fait je suis tombé là-dessus et c'est vraiment spectaculaire,
c'est
quoi.
Dingue,
ouais, c'est un très très vieux sport quoi, et c'est kiffant à regarder quoi. Tu t'en as déjà vu?
Non, mais je veux voir ça.
Ah bah franchement, ah, à voir. Et les mecs, voilà, t'as l'impression qu'ils font, ils font du Shaolin Soccer.
Tout gros, bien.
Mais en vrai, quoi.
Ils sont impressionnants, les mecs. Hein.
Il manque juste le feu et les bruitages, quoi.
Et le Roi Lion.
Et la musique du Roi Lion. Et je vous conseille d'aller voir, donc c'est Pactacro. Démerdez-vous pour l'orthographe. Hein, vous allez voir sur Google, vous trouverez ça.
On aura les références sous l'épisode.
Oui, toi, tu t'es déjà démerdé pour l'accent, on va pas t'en demander plus.
Ouais, déjà, je devrais plutôt essayer un accent indonésien. C'est Pactacro.
Oh merde!
Il l'a fait,
voilà, la blague raciste!
Avec l'accent cantonais, du coup.
Voilà, je dérape.
Il fallait bien un dérapage. Alors, en effet, c'est plus un film de baston que de football. Aucune règle officielle n'est respectée sur le terrain. Mais l'esprit de compétition sportive est bien présent. Et je m'étais posé la question, je vais vous la poser à vous, qui l'avez vu. Nanar ou pas nanar?
Oh non, pas nanar.
Non, parce que
on est quand même à la frontière.
Non, non,
quoi.
Parce que déjà c'est valide. Non, parce qu'ils ont voulu faire ça.
Mais
donc
oui,
c'est pas nanar.
Et ça
déjà,
se veut burlesque et ça l'est.
Voilà, donc c'est fini.
Un nanar, c'est quand c'est burlesque.
Dans le jeu,
ça ne se veut pas burlesque.
En fait, si tu enlèves les scènes de match de foot, le début du film. Début du film,
genre
c'est
pas
quand même...
parce que c'est voulu.
Mais est-ce que tu
c'est
as
pas...
vu...
Tant que tu veux faire le...
Je sais pas si c'est voulu...
Est-ce que tu as vu...
Ouais, peut-être un peu des deux.
Est-ce que tu as vu Crazy Kung Fu, qui est le film qui précède Shaolin Soccer de Stephen Chow, justement?
Ah, je crois que c'était après, ça.
C'est... Ou avant ou après.
Ouais.
C'est le même schéma, c'est du what the fuck à donf dès le début, et après c'est de plus en plus épique, et en même temps de plus en plus what the fuck.
Mais en tout cas, ça peut être vu comme un nanar.
Bon, non, moi je ne serais jamais d'accord.
Mais
ouais, non, c'est pas un nanar.
Pour moi, c'est un chef-d'œuvre.
Mais nanar ne veut pas dire pas chef-d'œuvre.
Ah, disons, alors non, attends,
ouais, c'est un autre débat.
Je vais, tu montes ça à des darons, tu vois, les miens. Par
ils vont
te
dire
au pif,
oui,
ils vont dire c'est un nanar. Mais eux ne comprennent
pas
la
pas
signification
du second degré.
Le second degré,
exactement.
Mais non, il y a du second degré, donc c'est pas un nanar. Un nanar, c'est quand il y a justement pas de second degré. C'est
pour moi, c'était ça restait quand même à la frontière. Moi, j'aurais dit pas nanar, mais ça peut être vu comme un nanar, mais
ouais.
Non, pas d'accord. En tout cas, je vous invite à vous faire votre avis. Hein, donc c'est une heure et demie de kiff total.
Ah, oui.
Si vous hésitez, vous pouvez aller sur YouTube. Vous trouvez beaucoup de compiles des meilleures scènes, bien que je vous conseille quand même de voir le film en entier.
Oui.
Et surtout, je m'y attendais pas, et finalement c'est pas une surprise, beaucoup de vidéos react en fait. Beaucoup de gens qui se filment en train de regarder
Shaolin
Soccer. Donc comme quoi c'est un film qui vous plaise ou non, il vous laissera pas indifférent, il vous fera réagir. Parce que voilà, c'est bourré de scènes cultes et... Allez-y, tout simplement. J'ai fait court pour une fois.
Merci beaucoup, moi ça m'a donné envie de le revoir. Parce que
moi du coup je l'avais vu en VF, je l'ai vu en VO et j'ai quand même envie de le voir. Je vais voir s'il y a un autre doublage en espagnol.
J'ai trop envie. De...
Pourquoi pas après tout.
J'ai trop envie de le revoir aussi.
Bah merci beaucoup bébé.
Ouais.
Merci c'était beaucoup, bien bébé. Cool.
Et de rien.
On a fini sur le sport les gars.
Yep.
Ouais.
On aurait
dû... passé
ouais, on voulait parler d'Olivier Tom, on n'a pas pu.
En fait, il aurait fallu tous remater ou tous relire.
On voulait parler de Kangoo aussi, les kangourous.
Comme j'ai dit avant l'épisode,
bah,
on n'a pas parlé
reco.
On n'a pas parlé du CD de Tony Parker non plus. Enfin,
non
voilà,
plus.
On n'a pas parlé de boxe dans le cinéma alors qu'il y a tellement de films sur la boxe.
On n'a pas parlé de Rocky, de Creed, mais on pourrait même faire un thème sur la boxe tellement c'est ouf.
En fait, on va se le garder. On pourrait se faire un thème sur la boxe.
C'était le thème général sport, mais après, il y a peut-être moyen d'en
parler. Moi, je vous avoue que Creed et Rocky, je voulais grave en parler. Et l'école des champions, qui était Olivier Tom français, faussement japonais. Mais...
Il y a un thème sur le kung fu aussi, tiens. Ouais. Et je reparlerai de Shaolin
les arts martiaux en général.
De toute façon, le cinéma hongkongais, quand vous voulez. Ouais.
Bah, dites-nous ce que vous voulez en fait.
Pourquoi n'hésitez pas à proposer des
thèmes.
C'est l'occasion de vous demander.
C'est vrai, ça coûte rien non plus.
Avant de se quitter, on va faire les petites recos rapides. On va le faire dans le même ordre qu'on est sorti. On va commencer par Pedro.
Ouais, alors bah moi je vais recommander un truc qu'à tous les podcasts de France.
Orelsen ?
Ouais, voilà. Que tous les podcasts de France ont dû déjà recommander depuis 15 jours, 3 semaines.
On serait même plus sur du 1 mois et demi, hein, je pense, quand ça sortira.
Ah ouais ? Ah oui, quand ça sortira. Oui, c'est vrai. Donc je suis grave à la bourre pour cette reco, mais tant pis. C'est pas grave, si vous l'avez pas encore vu, que vous êtes passé à côté, profitez des week-ends ou de Noël qui arrive bientôt. Pour vous poser un petit peu les fesses pendant 6 heures et regarder ne montre jamais ça à personne.
Ouais, je crois que c'est
un,
ça.
Un truc comme ça, ne montre pas ça à personne.
Ne montre, non, ne montre pas ça. À... Non, ne montre ça à personne ou ne montre jamais ça à personne. Soit il y a jamais, soit il y a pas jamais.
On peut tromper.
Bref,
une fois, tu vois ça où
c'est Amazon sur Prime. Amazon Prime et c'est un film qui est réalisé par le frère de Orelsan.
Très bien, Angelo, qu'est-ce que tu as à nous recommander?
Alors, moi je voulais recommander Dune, mais maintenant c'est un peu tard. Et ah, du coup, je voulais recommander The Last Dance, mais j'ai fait une chronique dessus. Donc du coup, je vais vous recommander Red Dead Redemption 2, qui est sorti il y a déjà 1000 ans. Mais,
Oui, alors du coup, Dune, ça fait, bon, on va dire, ça fait 3 mois où ça va sortir.
Ah oui,
donc,
mais
Red Dead Redemption 2.
C'est-à-dire que l'auditeur, s'il oui, il sera plus au ciné. Mais Red Dead Redemption 2, du coup, l'auditeur peut encore y jouer s'il ne l'a pas encore fait. Et Red Dead Redemption 2... Je pense que je peux dire que j'ai joué à beaucoup de jeux vidéo dans ma vie, parce que c'est vrai, j'ai grandi avec ça, depuis la Master System 2 et les MS-DOS jusqu'à aujourd'hui, maintenant, la dernière génération de consoles. Et je le mets dans le top 3 de mes jeux vidéo préférés, en dessous de Ocarina of Time, qui sera jamais le premier, et au-dessus de Witcher 3, qui est le numéro 3 pour moi. Voilà, je ne développerai pas là-dessus.
Très bien.
Le reste, c'est à vous de le dire.
Oui. Bah oui, oui. Du coup, de mon côté, moi, un peu en retard, je regarde la série Fringe.
Ah oui.
Qui est un peu le X-Files du 21e siècle, on va dire,
t'es
sans te dire.
T'es grave à la bourre.
Ah oui, bah oui, mais au moins c'est cool, il y a 5 saisons, j'ai juste à les regarder. Et, voilà. Et du coup, ouais, du surnaturel ou pas, des fois, ça dépend. Voilà, c'est pour ça le côté X-Files, c'est un peu ça. Des fois, c'était du faux surnaturel, et en fait, ils remarquaient qu'il y avait un truc scientifique derrière ou pas.
Okay.
Mais du coup, ce qui est bien, c'est 5 saisons, déjà c'est fini. Bon, c'est des saisons de 20 épisodes à l'ancienne. Et pour une fois, ce que je trouve bien, c'est que dans ces sortes de séries, d'habitude, t'as 2-3 épisodes pour l'intrigue principale et au milieu que des one-shots un peu. Et en fait, l'intrigue principale, quasiment dans tous les épisodes, il y a toujours une petite info. Ça permet de te garder en haleine, au pire. Et bien sûr, t'as des épisodes vraiment pour l'intrigue principale. Et c'est plutôt bien fait. Là, je suis à saison 3, en vrai.
Merci beaucoup. Voilà. Grand tour sur Amazon Prime.
Ok,
voilà.
Ouais, voilà. Pourquoi t'as pas recommandé ça alors, patate?
Ouais, il est dit Red Dead Redemption.
Parce que c'est pour toi.
Non, merci. Pépé?
Pépé, ouais, du coup.
Non, moi j'ai pas prévu de reco.
Ah bah, t'inquiète.
Voilà. Voilà. Pépé vous recommande de vous couvrir, voilà. C'est bien non, l'hiver.
J'ai pas fait de belles découvertes dernièrement.
C'est pas grave,
Ça arrive à tout le monde.
Et c'est bien dommage. Ouais. Dommage.
Du coup, on va finir cet épisode. Alors, moi j'ai juste quelques infos. Donc, comme on l'a dit, n'hésitez pas à donner des thèmes dans les commentaires, dans ce que vous voulez, ça soit sur les réseaux sociaux ou directement sur les plateformes.
N'hésitez pas à donner des thunes, vous pouvez aussi d'ailleurs. Hein,
si exactement. Mon numéro de banque, mon IBAN, c'est FR076.
Ah merde, moi aussi.
Et aussi, surtout, venez nous écouter. On a un site qui s'appelle le Slipclou Prod.
Slipclou Prod.
Ouais, ça, c'est le côté. C'est sur le côté indonésien. Slipclouprod.fr. Donc, il y a tous les podcasts de tous les copains.
Dont le tien. Pedro,
le mien raconte pote à pépite. Celui de Pedro à boire où je tue le chien.
C'est ça.
Du pote Rafi Biome.
Ouais,
celui-ci, bien sûr, que vous écoutez. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller dessus, à partager, tout ce qu'il faut.
Et Vinyl Vili Vici, dont
et
on a parlé
sûr,
en début
Mollusque
d'épisode.
Parlé au tout début.
Le nouveau format de Mollusque.
Le petit dernier. Ouais.
Deux, trois. Alors, au moment où on enregistre, on a 2 épisodes en ligne.
Voilà. Il y en a peut-être plus
peut-être
à ce moment-là.
Plus au moment où vous nous écoutez. Et c'est très très bon, ça parle de son sous toutes ses formes.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
De musique. Oui.
Voilà, voilà. Merci beaucoup.
Merci à tous
pour vos chroniques et merci pour votre écoute les gens.
Très bonne soirée.
Et ciao ciao.
Allez, gros bisous.
Ah bah, est terminé.
Et Houston, on a un problème. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin.
Pour savoir s'il va y avoir du vent, il faut mettre son doigt dans le cul du coq.
J'aime me battre.
Je l'écoute, mon cher Michel Bouchetard.
J'ai vu un homme s'enfuir.
Il était comment?
Il était de dos.
On fait une descente au village et on arrête tous les types qui étaient de dos hier.
Hasta la vista, baby.